Tiens! Je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets toujours une musique en lien avec mon mood. Bon, ce qui n'est pas très original, mais je fais ça comme plein de gens, la musique d'intro. Et ce matin, j'étais dans ce mood-là, un mood un peu chill. Je suis pas souvent dehors, je suis plus souvent devant mon PC, mais il y a de la lumière en ce moment. Hier, en emmenant les enfants à l'école, j'ai fait remarquer à mon petit dernier que les arbres étaient beaux. Il y a de la lumière, il y a le soleil qui vient jouer avec les feuilles, tu vois. J'ai ma petite sœur qui vient. Tu viens de faire. Waouh! Old Well qui dit, tu viens de faire l'amour, donc waouh. Attendez, c'est la charge de repeupler la France, c'est pas que sur mes épaules. Hein. Waouh! Donc, j'en venais à ma petite sœur qui vient nous voir aujourd'hui. À Paris, ça fait plaisir. Hein. À 14h, j'ai un rendez-vous très important, mais secret, je ne peux rien vous dire. Hein. La vie est belle. Voilà. Globalement. Voilà. Juste, j'arrive pas à me remettre au sport et petit bedou qui s'installe, mais. Waouh. Archange. Pardon, hein, puisqu'on parle de bonnes nouvelles. Bonjour, petite info perso, me dit Archange 57. Écoutez bien, ouvrez vos écoutilles. Je sais pas si on peut dire ça pour les oreilles, ça m'étonnerait. J'ai trouvé un travail dans une filiale d'Ariane Espace. Je suis trop content. C'est un rêve d'enfant que de bosser dans le spatial, comme j'adore l'astronomie. Pop, pop, pop. 6 mois de galère avant finalement de trouver ce travail de rêve. Donc parfois, ça vaut le coup d'attendre. Bon, du coup, à partir de juin, je pourrai plus être avec vous le matin. C'est pas grave. Ouais. Et là, bam, Archange se réveille. Et en fait, il a rêvé tout ça. Non, c'est top. Il faudrait que tu fasses du tapis en même temps que le stream. Eh ben, j'y pense. J'y pense. En fait. Le tapis en même temps que la revue de presse, non. Je suis pas sûr. Là, tu vois, j'ai besoin d'avoir les mains sur le clavier, d'aller chercher des infos, non. En revanche, un monde où. Mais quoi, ça. J'ai dit quoi comme bêtise? J'ai dit une bêtise? Quoi, j'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez passé un zizi? C'est un faux, hein? Et donc. Fait du Zwift en live. Ah, c'est du vélo, ça. Et donc, je me suis dit, il y a un monde où, par exemple, dans bientôt le stream s'amuse-cul, dans la foulée de la revue de presse, dans la foulée de la revue de presse, me mettre sur le tapis et faire tous les jours une petite heure de running en mode chat avec vous. Qu'est-ce que je mets comme micro, du coup? Petit micro HF? J'avais pas pensé au micro. Bah, micro casque. Ah ouais, mais alors en termes de rallonge, il faut que la table de mixage soit pas loin. Ouais. Ah ouais, il y a quand même un. Je suis sur le tapis, je me mets quoi en termes de micro? Avec un bureau, un quoi? Un bureau électrique se met en hauteur et un tapis de marchand. Non, je veux pas marcher, je veux courir, moi. Non. Un micro-cravate? Ouais, un petit micro-cravate. J'ai en plus micro-cravate, ça. Ouais. Le HMD, c'est trop. Ben en fait, le HMD, tu parles du Sennheiser. En fait, le câble est pas très long. Ouais. Ok. Ouais. Bon, je vais régler ça. Mais donc, voilà, l'idée de courir dans la foulée de la revue de presse. Comme ça. Sauf que aujourd'hui, le studio s'y prête pas du tout. Hein. Ici, c'est ça, c'est pas possible. Un micro sur une perche, genre au-dessus de toi comme au cinéma. Pas mal ça. Ça faut investir. Ah mais attends, mais. Mais si, c'est ça. Mais non, mais je prends le. Je prends ça, je prends le. C'est lequel celui-là? Le Shure là. C'est quoi? Comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié la rêve du Shure. Comment il s'appelle ce Shure déjà? Ah, le SM7B. Je mets un Shure? Avec une perche, avec vous savez ce que j'avais au début là, comme PA, c'est le roi de la perche, grosse perche PA, hein? Tu vois? Et en fait, je le mets à une distance, ouais, hein? Ouais, ce micro c'est un Shure.
For sure.
Ouais, c'est celui-là. Faut vraiment parler dedans par contre. Ouais, bien réglé. Attention au bruit de tapis, ouais, ça devrait aller. Après, si on entend un petit peu courir égale souffler, non, pas moi. Non, tu parles à un gars qui a un petit passé sur les sports d'endurance quand même. Donc, non, non, non. Non, 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 on fait plus, on fait du bedou, on fait du gras, mais il y a eu. Donc on va le retrouver, le souffle. Hein? Ouais, petite perche, tout simplement, ouais. Attention aux interférences, tapis stream, il y a déjà eu des cas où ça fait drop les streams. Ah, ok. Ok. Non, ça se passe. Et donc je vous disais que le local d'aujourd'hui s'y prête pas du tout. Mais pas dans ce studio. Voilà, Sugar me raccroche à mon propos liminaire. Moi aussi, je peux contextualiser. Hein. Et là, peut-être que dans les prochains mois, je vais changer de local. On va step up, hein. À un moment, il faut le dire, quoi. Oh, en parlant de running, j'étais passé à côté de toi dans la foulée de la Ginette lors du Marseille-Cassis. Magnifique course. Tu étais en pleine interview avec Nathalie Simon, tu vois? Hein, ça court en parlant ici. Ouais. Ça te va mieux les cheveux comme ça que presque boule à Z en mode Assemblée nationale derrière moi. Voilà, je me les refais pousser là. Donc, voilà, je suis en train de vous le dire. Il y a un nouveau local bientôt, je suis en train de régler ça. Bon, après, les serveurs déménagement, tu vois. Et après, quand tu bouges, tu flatules. Toi, Rex, tu pètes quand tu cours. Moi, non. Moi, je pète pas. Moi, je pète. D'ailleurs, je pète jamais. Et quand je fais caca, c'est comme des petits arcs-en-ciel, en fait. Voilà. Et donc, va y avoir changement. Je suis en train de m'en occuper. Bon, ça va être lourd. Il y aura déménagement et tout. Mais on va aller vers un outil. On va aller vers un outil qui va nous permettre de faire plus de choses. Voilà, c'est dit. Pourtant, on en fait déjà des choses ici, hein. Ah, tiens, des news sur Trump. Pas... Non, c'est une journée sans Trump aujourd'hui. Par contre, tu me fais penser à un truc. Tu me fais penser à un truc. Ouais, on va. L'ami Sugar nous a mis une nouvelle musique. Tintin. Tintin. Le chat, vous êtes tellement nombreux là. Voyage, voyage, on l'a vu hier, ouais, le clip de l'Iran, ouais. Si, il a dit que le coca sans sucre soignait le cancer. Quoi? Attends, Trump a dit? Quoi? En fait, quand je dis... Attends, j'ai plein de WhatsApp depuis ce matin. Attends, je regarde un petit peu. Papa, je te mène un quiz V1, Riot, de Lou, check, message, facture. Ok, ouais. C'est quoi ça? Pourquoi il m'envoie ça? Pourquoi il m'envoie ça, Mathias? Pourquoi il m'envoie des trucs? Je comprends rien. Ok. Alors, et mon Sugar, il m'a mis un nouveau son que je vais vous faire entendre de ceci. Alors, mon Sugar, il m'a mis. Vous savez, on s'est dit qu'à chaque fois que maintenant que Trump allait faire un truc, on allait mettre une petite musique. Ah, petite musique. Et Sugar, mon pourvoyeur de son, il me les a fait. Version longue et courte. Ah bon, on met toujours les deux, nous, ici, hein, c'est court ou long. Hein. Alors attends, version courte. Je sais pas si vous avez. Oh, c'est excellent. Ah, et puis en plus tu la chantes à la fin. Pa, 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 pa. Donc là je vous ai mis la courte. La longue. C'est affreux, hein, la langue française. Là je vous ai mis la courte. Et maintenant, je vais vous mettre la longue. Waouh. Peut-être la courte, non? Peut-être la courte plutôt. Ouais. Ok, je pense qu'on va prendre la courte. Je vais ouvrir mon logiciel de table de mixage qui me permet de vous mettre ça. Donc, je vous mets la courte. écoute, Roadcaster, let's go. Non, je veux pas jouer à Steam. Il s'ouvre pas? Est-ce qu'il s'ouvre? Ah, il s'ouvre, c'est moi qui suis trop impatient. Customize, let's go. Ok. La courte. Version courte. Continue, ok. Let's go. Oh! Drop. Ok, on va faire un toggle. Tac, tac. All one shot. Let's go. Vous êtes prêts? Ça donne. Alors? Toggle toi-même. Ah non, non, c'est des trucs. Dans... Hein? Voilà. Donc ça, on aura ça sur Trump. Ah, parce que bon, ça suffit. Hein. Voilà. Quoique, on pourra. Est-ce qu'on le mettrait pas aussi sur à l'oncle? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il a été accueilli dans les grandes gueules sur AMC. Enfin, les mecs, ils ont peur. Ils respectent rien. Les gars, ils reçoivent un élu de la République. Ils reçoivent un député. Hein, ils reçoivent un entrepreneur. Ah non, ça c'est faux, il a menti. Quand même. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais RMC, ils ont reçu Charles Lalonde, le rapporteur donc, de la commission de l'Assemblée sur le budget public. Le mec, il rentre et ils ont envoyé ça, quoi. C'est dingue, hein? C'est fou, hein? Oh la tête, oh la tête! En vrai, ça m'a fait un peu de la peine, même si je l'aime pas. Oui, bon, bah, ça va, il a suffi. Ça va, les mensonges! Ça va, les mensonges! Non, mais c'était incroyable. Donc voilà, bon, bah, on le mettra. Allez, on le mettra pour Trump. Et puis, si à l'oncle revient dans l'actualité, et c'est pas sûr! Et c'est pas sûr! Hein, il y a quelques mois, personne ne le connaissait. Je vous rappelle qu'ici, on lit des articles tous les jours sur la politique depuis 30 ans. Je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Ah. Donc, bon là, il s'est pris un petit coup de light. Et bon, on a bien compris le bousin, quoi. Mais il faut qu'il réinvente un truc, quoi. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il va revenir avec son rapport final. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça nous permettrait de mettre un peu de musique. Waouh, merci écrivain. Waouh, merci pour l'info. Ah, donc voilà. Donc alors, j'ai dit, il n'y a pas d'actu avec Trump. Merci Sugar, hein, tu régales. J'ai dit, il n'y a pas d'actu avec Trump ce matin. Et vous m'avez dit si. Là, je me méfie, là, quand même, elle est trop grosse. Il aurait dit que le coca sans sucre permettrait de guérir le cancer, je vous crois pas. Non, faut arrêter. Hein. Faut arrêter, c'est pas possible. Ouais, attendez, c'est pas possible. On vérifie, on vérifie. Attends, je vais taper Trump Coca. J'y crois pas, j'y crois pas. Ou une autre actu, on prend. Hein. Non, j'ai rien, j'ai rien. Vous avez inventé, hein. Vous avez inventé. Non, vous avez inventé. HuffPost? Mais HuffPost quoi? HuffPost. Il y a une heure. Ah, j'ai un truc. Attends. Trump assume de boire beaucoup de soda et sa justification va faire hurler les médecins. Attendez, attendez, attendez. Putain, il le dit. Putain, c'est pas possible. On va jamais en sortir. Hein. Le dernier épisode du podcast du fils de Donald Trump, publié mardi, c'était hier, permet d'en apprendre un peu plus sur ce qui pousse le président américain, donc son papa. Attendez, 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 je le fais pas officiellement là. Je regarde l'info. Après, je vous le fais. Connu pour ses approximations scientifiques, a consommé autant de soda. Pas de doute pour le locataire de la Maison Blanche, ces boissons sont bonnes pour sa santé parce qu'elles tuent le cancer. Oh merde. Ok. Bon ben, on rajoute l'actu alors. Bon, bah obligé, hein. Eh ouais. Ça peut que ça. Et alors, il est où mon sommaire? Il est où mon sommaire? Pourquoi pas? Allez, on va appeler ça une fausse ouverture. Hein? On va appeler ça une fausse ouverture, une fausse ouverture. Attends. Incroyable. Et après, je vais vous parler du Fanta aussi. Donc, fausse ouverture, c'est une info qu'on met en 1, qui n'est pas la plus importante. Voilà, mais elle vient de tomber, et donc on commence par ça. Une fausse ouverture. C'est pas... L'ouverture d'un journal est censée commencer par l'info la plus importante. Là, je vous ai mis par exemple un truc sur les sondages en politique. Une fausse ouverture, c'est pas une info qui est considérée comme la plus importante, mais c'est une info qui vient de tomber. Et on la met en 1. Voilà. Ou alors, c'est une info qu'on voulait mettre en avant, dont on se dit bien que c'est pas l'info la plus importante du jour. Oui, une mise en bouche. Voilà. Donc on va faire ça. On va faire. Alors c'est quoi le titre? Il dit Coca, il dit Soda, il dit quoi? Il parle du Fanta aussi. Fanta. Les sodas sans sucre. Ok. Les sodas light. Les sodas light. Tue le cancer. Ok. Allez. Ok. Ok. Bon, oui. Hein, voilà, on fait ça. Je vous rajoute ça en live. Hein. Ajoutez un sujet. Et allez, je vous montre comment ça travaille ici. Là, vous voyez rien, c'est normal. Ok, nouveau sujet. Trump. Les sodas light tuent. Il y a Asko qui dit, et ça tue les neurones aussi. J'espère pas parce que j'en bois beaucoup moi. Sauf que moi je dis pas que ça tue le cancer quoi. Tue le cancer. Waouh! Source, t'inquiète. Et je mets entre parenthèses source HuffPost. Parce que j'ai pas de logo HuffPost. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas demandé à Boubou de nous faire un petit logo HuffPost. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on va assez souvent voir le HuffPost. De même qu'on a rajouté une émote Mediapart il y a pas longtemps. Ouais, voilà. Et donc ça donne ça. Voilà. Ok, super. Bon, bah on a une petite fausse ouverture. Voilà. Rien à voir avec quand on était quand on était au collège ou au lycée, qu'on s'intéressait aux filles et qu'on disait, dis donc, est-ce que tu penses que j'ai une ouverture? Ça se disait, on disait ça à l'époque, non? Hein? Tu penses que j'ai une ouverture avec Ça se disait ça ou pas les vieux? Les vieux? Non? Ça vous parle ou c'est moi qui invente là? Ça vous parle? Oui, une touche. Oh là là, ouais. À l'époque, oui, voilà. Ça sonne bizarre, une ouverture. On va pécho. Ah non, on va pécho, c'est venu après ça. Ouais, une ouverture, une touche. Ouais, tu crois qu'il y a moyen, voilà. Tu crois qu'il y a moyen de moyenner. Ouais, c'est un vieux truc. Ouais, comme aux échecs. Comme aux échecs. Voilà. Jean-Claude Duss le disait. Oh, peut-être que Jean-Claude Duss. Le disait ça. Ouais. Tu crois que je peux Doro la gadjie? Alors ça je l'ai pas ça là. Ok. Non parce que on va pas se mentir, nous les garçons à partir du collège, on pense très fort à ça quand même. Hein. À l'ouverture, je veux dire. Ok. C'est comme d'hab, il sort une ânerie pour distraire les gens, c'est sa tactique préférée, inonder les médias d'ineptie pour que les vraies infos passent tranquilles inaperçues. Nous dit No Limara. Je sais pas si ça marche cette tactique. La presse du monde entier raconte la dinguerie qu'est la guerre en Iran. On en parle tous les jours. Là, on fait une petite pause aujourd'hui. Marche pas trop bien sa tactique. Hein. Voilà. Les sondages sur Trump sont en chute libre à l'approche des élections. L'inflation est toujours aussi haute. Le prix du pétrole et des carburants à la pompe pour les Américains est super haut. Sa guerre commerciale, c'est une catastrophe. Je suis pas sûr qu'on passe à côté de l'essentiel. Enfin, en tout cas, pas ici. Ouais. Même les électeurs américains s'en rendent compte, alors tu vois. Si même les électeurs américains s'en rendent compte. Donc non, c'est un petit bonus. C'est un petit bonus. C'est juste que pour se rendre compte que dans une démocratie, bien, on a le pouvoir, les électeurs, ils ont beaucoup de pouvoir, notamment le pouvoir de mettre ce genre de gars au pouvoir. Voilà. Et c'est une responsabilité. Voilà. À un moment, tu es fatigué, tu vas voter, tu fais pas attention, et puis tu élis à la tête d'un pays comme les États-Unis un mec qui dit que le soda light tue le cancer. Voilà. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Et avant de continuer, d'abord, je voudrais remercier les swaps, puis on va parler un petit peu quand même de réponse cash de le stream d'hier soir qui était bien cool. Moumou Reine des Mouettes, merci pour le 24e mois, qui nous dit salut les Samzouz. Waouh, les Samzouz. Merci Google35, merci pour le Prime Tone Ward, merci pour le Prime, merci Rem Bruvui pour le Prime, merci de ce soutien, vous êtes incroyable. Merci Frog Enjoy. Oh, encore une grenouille. Merci Nilix39, merci Forest68120, merci Natou221, merci Captain Tot. Assez Captain, assez. Excusez-moi, oh, la chanson. Assez Captain, assez What You. Désolé, je suis désolé. On l'a écouté il n'y a pas longtemps. Merci Captain Tot, Toto même. Merci Off the Rock, merci Hugo 10, merci Tractor, Super Kevin Tran. Mais Super Kevin Tran, c'est pas Kevin? Je sais pas, qui était avec nous hier. Mofort, Froredo, User Artix, Laurine des Neiges, à l'instant, merci pour le deuxième mois. Voilà. C'est le, oui, c'est le vrai. C'est le vrai. Captain Sensible. Ah, exactement. C'est bien lui? C'est Kevin. Incroyable. Ah, Super Kevin 75 me dit c'est moi le Super Kevin, c'est pas l'autre, c'est un plagiat. Ok, merci Yano System. Comment ça va, mon ami? Donc, est-ce que ça vous a plu hier? Je ne vais pas leak. Je ne vais pas leak le résultat de cette compétition, de ce réponse cash 2, puisque certains ne l'ont pas vu et m'ont dit en début de ce stream. Sam, surtout, ne leak pas. Ne leak pas le résultat du jeu d'hier. J'allais dire quiz, mais c'était bien plus que ça. Il y avait basket. Il y avait fléchette. Il y avait concours de glissade de palais. Hein, on avait un peu pimpé le jeu. Et alors je vois plein de oui c'était trop bien et tout, merci beaucoup parce que on s'était un peu on s'était cassé le cul hein. Voilà, on avait, salut Bardino, tu vas bien, comment va la cuisine, merci Pierre à 2809, merci Moret 35. Et donc voilà, on avait mis les petits plats dans les grands. Est-ce que pour commencer, attendez, est-ce qu'on a un replay quelque part sur YouTube, il va arriver tout à l'heure, attendez, quand même le plateau quoi, le plateau, quand même le plateau quoi, le plateau. Je suis en train de me regarder, quel enfer. Ah, merci Sugar.
T'es sûr que c'est ça la question? Je sais pas quand ils acceptaient plus.
Alors attendez. Voilà, ça c'était hier soir. Ça c'était hier soir. Et déjà, donc voilà, donc c'est, bon, c'est plusieurs mois de boulot hein, cette histoire. Hein. Comment vous savez qu'il y avait des sushis? Oh, l'arrêt sur l'image qui fait pas honneur au présentateur. Oh, le vieux machin là, qui a mis une veste pour être beau et tout. Regardez, pardon, le plateau, quoi. Hein, ça taffe, hein. Voilà. Donc, regardez la qualité des pupitres, là. Les buzzers qui marchent et qu'on entend. Regarde à 23 minutes, c'est passé quoi, 23 minutes? Parce que, vous savez, ça a l'air de rien, mais moi, j'ai fait déjà des quiz sur Twitch avec des buzzers, tu les entends pas, quoi. Ou alors, tu sais pas qui a la main. Waouh, de qui a la main? Voilà. Donc, des buzzers qui marchent. Voilà. Des pupitres avec les scores, avec les noms. Pourquoi c'est si dur d'avoir des buzzers qui marchent? Je sais pas, faut demander à la prod. Bon, en général, je demande des buzzers qui marchent, quoi. Voilà. 23 minutes, je note. Voilà. Derrière les scores, on s'est rendu compte au bout d'une heure qu'il y avait les scores derrière. Ça, incroyable. Voilà. Le gros pupitre devant le présentateur. Parce que bon, comme il est vieux, il sait plus ce qu'il fait. On lui met un gros pupitre comme ça. S'il oublie de mettre un pantalon à l'antenne, ça se voit pas. Voilà. De la fumée, bien sûr. Voilà. Et puis bon, voilà, un petit plan sur le présentateur. Oh là là, putain, les arrêts sur l'image, c'est dur. On dirait Ardisson. Paix à son âme. La qualité de la lumière. Parce que, en fait, une prod, c'est tout ça. Hein. C'est d'abord c'est un beau décor. Moi, pour la vue, la fumée, on était en mode thriller et tout. À tout moment, il y avait des morts vivants qui sortaient du sol. Hein. Moi, j'ai eu très très peur pendant tout le truc. Donc, voilà. Donc, c'est une jolie lumière aussi. Hein, parce que, voilà. Putain, c'est affreux. À chaque arrêt sur l'image, je ressemble à rien, quoi. Il n'y a rien qui va. Ah, ouais, là, quand je regarde, quand j'ai la tête baissée, c'est un peu mieux. Ouais. Ah. Ah là, celle-là, elle est bien. Donc, une belle lumière. C'est pas facile, une belle lumière. C'est pas le plateau de popcorn? Ah, pas du tout. Là. C'est pas du tout au même endroit. Non, c'est une autre prod. C'est une prod avec qui je travaille souvent. Du côté de chez Popcorn, ils sont très bien aussi. Mais là, c'est avec une autre prod. Donc, regardez. Donc, belle lumière. Parce que là, c'est zéro maquillage. Hein. Voilà. Belle lumière. Bon, après, moi qui aime bien un petit peu regarder tout ce qui est technique, moyen et tout, tu vois, là, en termes de cam, il y avait, je sais pas, il y avait 6 ou 7 cams. Voilà. notamment avec une des cams Sony que je vois de plus en plus sur les tournages sur Internet. Je sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que c'est la RX6, je sais pas. Mais enfin, bon, voilà. Il y a du matos, quoi. Donc voilà. Et puis, à combien tu dis? À 23? 23? Tu m'as dit 23 minutes? 23 tout pile? 23 minutes. Ok.
Combien le skin le plus cher, Sam? T'as acheté, toi? Oh, regardez cette tête, regardez cette tête déjà.
Moi, au début, j'ai commencé à jouer à Valo en mode, mais jamais j'achèterai un skin de ma vie.
C'est 90 balles.
Donc, ton frère a acheté mon premier.
C'est où? Qu'est-ce qui se passe à 23?
Je suis à combien? Je sais pas, je suis à. En général, je dis 1000, mais ils me disent plus.
Mais pour un skin, le max que tu as payé pour un skin.
J'ai du mal à.
Le bâton, là, non? C'était pas le bâton.
Ah, t'as le bâton. 80 balles.
Non, mais moi, j'ai fait pareil pour le bâton, tu sais, de Magical Girl.
Combien?
C'était le bundle à 80 balles.
En fait, pendant les répètes, bon, l'équipe était super, Joe était là pour orchestrer un peu le tout, donc tout était en place. Tu sens quand le truc est bien, quoi. Et à un moment, je vois dans le retour, à la répète, je vois un effet, ils me mettent comme ça, quoi. Ils me mettent comme ça. Et j'éclate de rire et je dis, mais c'est super drôle. Et je leur dis, mais vous pouvez le faire pendant le live? Ils m'ont dit, mais on a le droit? Je dis, mais oui, bien sûr. Et en fait, ils l'ont mis pendant le live.
Comme je suis à combien? Je sais pas, je suis à. Non, je dis 1000, mais ils me disent plus.
Mais pour un skin, le max que tu as payé pour un skin.
J'ai du mal à.
Le bâton.
Et en fait, donc, je leur ai dit, mais mettez-le si vous voulez, au contraire, c'est super drôle. Hein, il faut se moquer du présentateur. Et ils l'ont mis, mais je l'ai pas vu. Et je l'ai pas vu pendant le live. Sinon, évidemment, j'aurais commenté. Mais je l'ai pas vu. Voilà. Donc ouais, il y avait ça, ouais.
Non, c'était pas ton bâton.
Mais bon.
Ah, t'as le bâton.
Donc il y avait ça, puis bon, il y avait aussi, alors en termes d'éclairage, c'était un peu moins bien, mais on avait donc la deuxième scène, la deuxième petite scène, avec donc le concours de palais au début, là. Voilà, il y avait les fléchettes, le basket. Bon, tu vois, alors il y avait des rébus quand même, tu vois. C'est du taf, hein. Regardez, la DA. Regarde, les fléchettes. Oh, le Thomas de... Hein? C'est pas mal, en vrai. Avec la petite caméra zénithale, là. Et la cadreuse, la caméra à l'épaule. Vous avez vu? Je spoil pas le gagnant. Donc, voilà. Donc, non, c'était... Je suis content, parce que c'est plusieurs mois de travail. Hein, ça se prépare pas comme ça, une prod comme ça. Les règles, la mécanique, les questions... les invités, il faut trouver les 5 invités, tu vois, ça prend un petit temps. La prod, voilà. Donc, et parfois, tu fais ça et le stream n'est pas top. Là, il était bien. Et c'est en replay. À partir d'aujourd'hui, assez tôt, 11h midi, YouTube, sur YouTube, voilà. De beaux invités, pas si facile à rendre disponible en plus. Bah, pour faire venir un PA avec son agenda de ministre, Mathieu me dit normalement 11h, voilà, sur YouTube. Merci Mathieu. PA, il a un agenda de fou. Hein. Enjoy Phoenix, c'est pareil. Bagheera, c'est pareil. Thomas Dezer, pareil. Kevin, pareil. Donc voilà. Donc c'est. Voilà. Je m'y connais en streamer débordé, me dit Bardino. Je vois pas du tout de qui tu parles. Donc, un, déjà, c'est compliqué à faire venir, mais cinq, voilà. Donc, c'est du taf. Et en vrai, c'était cool. Voilà. Et donc, je suis content que ça vous ait plu. C'est en replay sur Twitch pour les abonnés déjà. Et c'est en replay sur YouTube à partir de 11h de midi. Voilà. Grosse prod. Oui, Thomas qui est devenu une grosse tête sur RTL hier avec Ruquier, ouais, il m'a raconté ça. Ah, on aurait dû en parler pendant le stream d'ailleurs. Ah, j'ai oublié. J'ai préféré parler de son livre sur le cinéma qui sort pour les fêtes là. Je vous lis un petit peu puis on y va, hein, on va y aller, hein. 34 minutes d'intro, ça y est, on va y aller, on va bosser un peu. Hein. Si ça se trouve dans 5 ans sur France Télé, de quoi ? De quoi dans 5 ans sur France Télé ? Pourquoi France Télé et pourquoi dans 5 ans déjà ? Hein ? Tu n'as pas reparlé d'ailleurs de ton émission potentiellement hebdomadaire. Non, ça avance pas. Bah, je pose beaucoup sur l'hebdo Étienne, là, mais bah, j'ai lancé des chantiers. Pour l'instant, ça avance pas. Pour l'instant, j'ai pas le moyen de le faire. Ouh, le concours de professeur des écoles. Bravo, Enela. Voilà. Et la CQFD. Petit message pour confirmer la légende. Ça n'est pas une légende, c'est un fait. Raconté hier qui disait que tous les gens de ce chat, cette communauté, obtiendraient leur concours et examen. Je suis admissible au concours de professeur des écoles. Voilà. Et voilà. Je vous rappelle que toutes les personnes de cette communauté, c'est 100% de réussite aux examens et aux concours. Eh oui. Plus besoin de réviser exutoire. Comment te dire ? Non. Si vous faites partie de cette communauté, c'est que vous êtes des gens rigoureux, justement. Non. Ça me révise pour vous. Non. Plus je révise plus rien, plus jamais, moi. Si, sauf les streams. Parfois, il y a des streams que je révise. Oh my god, on en reparle en septembre pour mon oral. Mais bien sûr. Aux entretiens aussi, mais bien sûr. Regarde, It's Void. Moi, j'ai réussi le concours de sous-officier de gendarmerie. Voilà. Merci Camille pour l'abonnement offert à la commu. Merci Carole CGM. Merci Pierra. Mais bien sûr. Je confirme, j'étais là. Je suis admissible à mon concours aussi. Merci Sam, me dit Gabs. Mais bien sûr. Voilà. Et révisé devant le stream est deux fois plus efficace. Bien sûr, Tchernosaurus. Regarde, Dedelin, j'ai été reçu au concours de Mister Univers. Ben voilà. Est-ce que ça marche pour les concours de maître de conférence à l'université ? Bien sûr. Voilà, ma fiancée a enfin réussi plusieurs tentatives, le CRPE, plus que les oraux s'accrochent. Voilà. Mais oui. Hein ? Ça marche pour les enfants de ceux qui sont là ? Ah non, il faut que les enfants regardent aussi. Hein. C'est même rétroactif. Tiens, c'est même rétroactif, me dit Lombric. J'ai eu mon examen il y a 10 ans, me dit Lombric, et c'est grâce à Sam. Voilà. Et c'est rétroactif. Merci, Alexandra. Voilà, je confirme, j'ai réussi mon entretien. Je commence en mai, me dit Anaïs. Je confirme, mon allocation chômage a été validée, me dit Yeles. Voilà. Bardino, c'est pareil, n'a jamais redoublé de toute sa vie et c'est un habitué de la communauté. Voilà, ça va dans les deux sens. Si vous êtes là, c'est que voilà, il y a quelque chose en termes d'investissement, de brillance même, on peut dire. Voilà, j'ai gagné mon concours de boule à bois, je ne veux pas savoir ce que c'est, en regardant ce stream 100% validé. Voilà, je confirme aussi, je suis admis à l'IMT, Sigma Clermont, école d'ingénieur en génie industriel. Mais bien sûr. Je viens de gagner le concours de la première à finir son petit déj, Nausicaa. Voilà. Ah, vous voyez ? Eh oui, c'est ce qui se passe ici. J'ai eu mon augmentation, voilà, Léon Darning. Mais oui. Je viens de gagner l'euro mignon grâce à ce stream. Ah, alors dans ce cas-là, il faut partager. Hein. Ah oui. Ouais. Voilà, j'ai raté l'école normale il y a 25 ans parce que Samuel ne streamait pas à l'époque. Voilà, ben voilà. Hein ? Un concours de tirage de slip, c'est quoi ça, Remix ? T'as gagné un concours de tirage de slip ? Ouais, mais alors c'est quoi par contre ? Oui. Alors Bézid dit, je viens d'être viré. Ah bah oui, mais ben voilà, c'est QFD. Bézi dit, je viens d'être viré. Voilà. Vous allez me dire, vous voyez, ça marche pas, Samuel. Ben oui, mais c'est ton premier message dans cette communauté. Tu viens d'arriver, c'est pour ça, c'est trop frais. Mais tu verras pour la suite, pour tes prochains entretiens, pour tes... Ça va le faire. Mais c'est parce que t'es... Voilà, il fallait être là. Ça fait 5 ans que je stream, hein, je peux pas... On va pas t'attendre non plus. Hein. Fafa nous dit, j'ai réussi à parler la langue des signes avec des moufles grâce à Sam. Voilà. Voilà. Samuel le gourou. Moi, c'est pas ça. Waouh. Eh oui. Je suis là souvent, mais je parle jamais. Ah, désolé, Buzzy. Blague à part, force. Voilà, et je croise les doigts pour la suite. J'ai l'entretien pour l'EDEC lundi pour les masters. On y croit. Merci Mobutu. Mais qu'est-ce que Mobutu a à voir avec ça, par contre? Ok. Ah bon. Bon, allez, on va bosser. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Hein? Normalement, c'est 30 minutes l'intro ici. N'oubliez pas que les gens qui vont écouter cette revue de presse en replay, en audio, ils ont pas l'intro. Hein. Ils ont juste l'info. On y va? Est-ce que Réponse Cash est un concept 100% français? Ah, il y a Charles Allon qui est dans le chat. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Allez, go. Vous êtes prêts? On y va? Pop it up. C'est parti? Ok. Ah bon, je me mets en bas du chat. Et c'est parti. Gestion du sommaire. Et c'est parti pour le sommaire. Bonjour à tous. Bienvenue comme tous les jours. Qu'il vente, qu'il pleuve. Bon, sauf qu'il fait beau, c'est le printemps en ce moment. Qu'il neige, voilà. Qu'on soit fatigué, pas fatigué, en pleine forme, pas en pleine forme, enrhumé, pas enrhumé. C'est la matinée, Étienne. C'est la revue de presse tous les matins. Tous les matins, 9h, 12h, 10h, 13h, du lundi au vendredi. Et ça fait 5 ans que ça dure et c'est le kiff. Alors, je dis merci à ceux qui sont en live sur Twitch avec moi. Merci le chat. Je remercie ceux qui vont nous consommer en replay sur YouTube et ceux qui vont nous écouter en podcast audio. Voilà, tous les jours, Vincent poste la revue de presse du matin en podcast audio sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, toutes les plateformes à partir de 15-16 heures. Et vous êtes très nombreux à nous écouter aussi ici. Alors, merci. On commence par le sommaire. Qu'est-ce qui se passe en ce mercredi 15 avril 2026? Alors, une actu qu'on a rajoutée tout à l'heure pendant l'intro, quand je disais ma communauté, mais j'ai pas d'actu sur Trump aujourd'hui. On fait une petite pause sur la guerre en Iran, ça reprend sûrement demain. Hein, j'ai rien sur Trump. Et que nenni, la commu m'a dit, mais si Samuel, Trump a dit que les sodas light tuaient le cancer. Et là, j'ai dit, là vous inventez. Là vous inventez, ça n'est pas possible. Non, ça. Le concept. Le théorème, chaque jour, ça dinguerie avec Trump, c'est pas possible. Hein. Ça peut pas marcher. Eh ben si. Eh bien si. Effectivement, j'ai vérifié, il y a un article du Huffington Post là-dessus. Trump assume de boire beaucoup de soda et sa justification va faire hurler les médecins. Il a déclaré dans un podcast, le podcast de son fils, qu'effectivement, s'il buvait autant de podcasts de soda light, c'est parce que ça tuait les cellules du cancer. Vous avez envie d'en savoir plus, restez avec nous, on va développer ça dans le sommaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'actu? On a un dossier dans la croix sur les sondages, parce qu'on va en manger! On va en manger, les sondages! En cette proximité de la présidentielle qui arrive, là. Hein, c'est dans un an, mais elle va arriver très très vite, voilà. Et la croix nous en parle, justement, des sondages bien encombrants. À un an de la présidentielle, la croix explique comment les enquêtes d'opinion sont réalisées. Ah, comment c'est fabriqué les sondages? Ça, c'est un vrai bon sujet. Et pourquoi elles vont se multiplier jusqu'au jour du scrutin? Comment les sondages envahissent la vie politique? Faites pas attention au petit bruit. C'était sur mon PC. Voilà. C'est bien aussi, c'est ce qu'on essaie de faire ici. C'est pas seulement l'actu brute, c'est aussi décrypter les trucs. Par exemple, les sondages, on se pose beaucoup de questions sur les sondages. Voilà. On en parle tout à l'heure. J'ai fait exprès de pas en parler hier. Je voulais attendre un petit peu, je voulais être sûr d'avoir le bon article, je pense que je l'ai trouvé. D'anciens dirigeants du groupe français Lafarge ont été condamnés, voilà, pour soutien financier au terrorisme. C'est la première fois qu'une entreprise française, parce que je crois que l'entreprise est condamnée aussi, est condamnée pour financement du terrorisme. Hein, c'était le groupe Lafarge, à l'époque, hein, c'était... On parlera de la période, l'article précisera. On était dans les années... 2013-2014. Hein, l'entreprise avait des activités en Syrie. Et malgré la présence de Daesh, l'entreprise n'a pas fermé cette implantation. Au contraire, a préféré donner des millions d'euros aux terroristes et financer leur activité pour pouvoir poursuivre l'activité. Donc c'est gravissime. Hier, il y avait pas mal d'articles, mais je ne trouvais pas d'article qui nous racontait bien globalement l'histoire. Et dans la dernière édition du Monde, je l'ai trouvé, donc je vous en parlerai. Lourde peine pour les anciens dirigeants du groupe Lafarge. Ensuite, on ira voir du côté de Mediapart avec la suite des élections en Hongrie. Vous savez que le Orban a chuté, voilà, et ça a des conséquences sur la vie politique du pays, notamment, mais pas seulement, aussi sur la politique en France, puisque j'ai un article dans Mediapart qui nous dit qu'après la défaite d'Orban en Hongrie, en France, le RN perd un modèle et un allié, puisque c'est vrai que Marine Le Pen, notamment, et Jordan Bardella n'avaient pas caché leur soutien à ce que faisait Orban en Hongrie. Principal partenaire européen du parti de Jordan Bardella, le Premier ministre hongrois a été battu après 16 ans de mandat, au terme d'une campagne marquée par les ingérences états-uniennes. Orban était à la fois proche de Poutine et de Trump. Un avertissement estime le Mediapart pour le RN qui veille aujourd'hui à revendiquer son indépendance vis-à-vis de Donald Trump. Voilà. Donc on lira Mediapart et on lira Mediapart sur un autre sujet, sur l'affaire Bruel. Il se trouve que Mediapart a révélé il y a quelques semaines, on en a longuement parlé ici, une enquête qui est le produit de plusieurs années d'enquête sur les accusations de violences sexuelles et de viol de plusieurs femmes contre le chanteur, donc je parle de Patrick Bruel, et c'est la suite, il y a l'enquête médiatique, l'enquête des journalistes, et il y a une enquête judiciaire qui vient de s'ouvrir. Affaire Bruel, la justice française ouvre une enquête. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête préliminaire après la plainte pour tentative de viol et agression sexuelle de Daniela Elsner contre Patrick Bruel. Celle-ci avait témoigné dans Mediapart le 18 mars aux côtés de 7 autres femmes. Le chanteur conteste toute violence, contrainte ou menace. Pourquoi c'est une info ? Parce que quand il y a plainte, la justice n'est pas obligée d'ouvrir une enquête préliminaire. Hein. Ça peut être classé sans suite, comme on dit. Et là, il y a une plainte, et le parquet de Paris, le procureur, dit « Ok, on ouvre une enquête ». Donc c'est ça l'info. Et Talon du cul nous dit « Enfin, les paroles se libèrent ». Et donc on a un dossier, non seulement qui donne cette info, mais qui contextualise, qui nous rappelle un petit peu les faits. Waouh, il y a Florent qui cite la chanson « Qui a le droit ?». Alors c'est effectivement une histoire de droit, c'est une histoire de justice. Voilà. Après l'affaire Bruel, on ira sur... Lafarge, je vous l'ai mis là. D'accord, bon, peu importe l'ordre. Peut-être que Lafarge, on peut le mettre plus haut quand même. Peut-être, non. Peut-être que Lafarge, j'ai envie... Je vais peut-être le monter, Lafarge. Je vous l'ai mis après Bruel, mais peut-être que je peux le mettre plus haut quand même. Ouais. Vous faites ça en direct. C'est peut-être pas mal, là, devant la Hongrie. Ouais, voilà. Et puis on finira avec un dernier sujet. Voilà, je vous parle régulièrement d'IA parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une révolution technologique et sans doute aussi une révolution économique. Et j'ai trouvé un papier intéressant dans Le Monde sur, aux États-Unis, l'émergence de salariés dopés à l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Mesurer la performance en token plutôt qu'en heures travaillées dans la Silicon Valley, l'intelligence artificielle redéfinit les critères de valeur des salariés avec en creux la menace d'un déclassement. Ah, ce sera le dernier article. Justin nous dit, petit coucou ce matin après mon oral de l'école de Strasbourg hier qui s'est bien passé. Bonne fin de revue de presse à tous et à toutes. Quand je vous dis que regardez ce stream garantit le succès aux examens, voilà, c'est pas des fake news. D'ailleurs, on va commencer par une fake news dans un instant avec Trump qui nous dit que boire des soda light, ça tue le cancer. Incroyable. Voilà. Il est comment, mon sommaire ? Hein ? Il est shiny, il est pas mal ? Vous en pensez quoi ? Vous contractez ? Est-ce que vous contractez ? Ça contracte ? Ça valide ? Il est charnu ? Il est pas frais, mon sommaire de Tiger 49. Et tu m'as vu, toi? Comment ça, il est pas frais? Bien sûr qu'il est frais. Bien sûr qu'il est frais. Tiens, t'as gagné un historique, toi. Hein? Dis donc, t'en donnais, moi. C'est comme mon poisson. Il est frais aussi. Pas de sortie ciné. Non, j'ai lu tous les articles sur les films. Il y avait des trucs intéressants. Mais en fait, pour vous proposer un article, il faut que ça dépasse le stade intéressant. Voilà. Tu vois, je lis l'article. Par exemple, il y a les sorties ciné. Par exemple, ce matin, j'ai lu 3 ou 4 articles sur le même film. Et je suis au bord de vous le proposer. Voilà, le film de Toledano et Nakache, par exemple, Cyril. Voilà. Je suis au bord de vous le proposer. Mais il manque le petit truc. Je me dis, ouais, c'est ok, mais voilà, tu vois. Il faut que ça m'intéresse, moi. Il faut que je me dise que ça vous intéresse. Voilà. La qualif du PSG hier soir, je me félicite pour les supporters du PSG. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Hein. Le 2-0 au match aller, 2-0 au match retour à l'extérieur, c'est magnifique. Bon, mais moi, je suis un footique, ça, j'y connais rien. Donc, mon expertise sur le foot, elle vaut rien. Donc, je vous donne le résultat, mais j'ai rien à vous dire là-dessus, quoi. Hein, contrairement à certains, quand je maîtrise pas un sujet, j'évite d'en parler, quoi. Contrairement à certains rapporteurs des commissions de l'Assemblée.
Je dis ça, je dis rien.
Ok. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, on va commencer cette revue de presse par le premier sujet que vous m'avez soufflé quand, lors de l'introduction tout à l'heure, je vous ai dit, pas d'actu sur Trump aujourd'hui. Et non, pourtant, il nous a habitués à sa petite dinguerie quotidienne. Voilà. Parfois qui nous fait rire, parfois qui nous inquiète au plus haut niveau. Voilà. Groenland, Venezuela, guerre en Iran, déclaration à l'emporte-pièce, je mets un poste où je me représente en Jésus, les catholiques de mon pays, les chrétiens de mon pays s'en émeuvent, et puis finalement je retire le poste, et en fait non, je voulais pas me mettre en Jésus, je pensais que j'étais en médecin. Enfin, et je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rien ce matin. Vous m'avez dit, si, il y a. Trump a dit que les soda light pouvaient guérir le cancer. J'ai dit non, c'est impossible. Et on avait vérifié, oui. Voilà. Et bien du coup, ça nous permet d'étraîner notre nouvelle petite musique. À chaque fois que Trump nous en sortira une nouvelle, on aura le droit à ça. Voilà, c'est le jingle. Qu'on ne réserve pas qu'à Trump, d'ailleurs il pourra peut-être servir aussi à d'autres, peut-être même des politiques français. Merci à Sugar dans le chat, mon pourvoyeur officiel en son. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous savez quoi, on va même la partager avec nos amis de YouTube celle-ci, parce qu'elle me paraît à moins qu'on fasse Bruel peut-être. Ah, je ferais peut-être Bruel, hein. On va peut-être faire Bruel pour YouTube, je pense. Ouais, je pense. On fera Bruel plutôt. Hein, faites-moi penser. Allons-y sur Trump. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez me dire, c'est trop gros, c'est impossible. Voilà. Trump assume de boire beaucoup de soda, écrit le HuffPost, le Huffington Post, site d'actu sur Internet qui, ma foi, est de bonne aloi. Et sa justification va faire hurler les médecins. Mehmet Oz, médecin proche du président américain, a évoqué sa consommation de soda light dans le podcast de son fils Donald Trump. Ah, c'est pas Trump qui parle dans le podcast de son fils. C'est un médecin proche du président américain. Ok. Un raisonnement très loin de tenir la route. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le dernier épisode du podcast du fils de Donald Trump, donc déjà le fils de Trump, il a un podcast, publié mardi, donc c'est tout frais, hein, c'est hier, permet d'en apprendre plus sur ce qui pousse le président américain, connu pour ses approximations scientifiques. Oh, 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 oh. Tout ça parce qu'il a dit que l'eau de Javel permettait de soigner le Covid. Oh, oh. Si on a plus le droit de se baser sur une intuition maintenant, hein, où va le monde, hein, à consommer autant de soda. Pas de doute, pour le locataire de la Maison Blanche, ces boissons sont bonnes pour sa santé parce qu'elles tue le cancer, mesdames et messieurs, pour Trump, le soda light tue le cancer. Let's go! Une analyse évidemment fausse, oui, il faut le rappeler quand même, qui a de quoi faire bondir les médecins, qui a suscité les étonnements de plusieurs médias anglophones, dont le HuffPost américain et le Times. ton père assure que les sodas light sont bons pour lui parce qu'ils font mourir l'herbe quand on en verse dessus. Ok. A expliqué le docteur Mehmet Oz, animateur télé, désormais membre de l'administration américaine, qui est l'invité du podcast. Donc l'analyse, ce serait que quand tu verses du soda, sur de l'herbe, ça tue l'herbe et donc sans doute que ça doit tuer le cancer. Ces effets des sodas dits sans sucre sur l'herbe conduiraient Donald Trump à conclure qu'il doit forcément tuer les cellules cancéreuses dans le corps. Bah oui. Hein ? Il est à deux doigts de nous dire, comme le dit Arfang, de prendre des pilules de glyphosate. Hein. Buvez du désherbant. Hein. Conduirait Trump à conclure qu'il doit forcément tuer les cellules cancéreuses dans le corps, a rapporté Mehmet Oz face au fils du président américain. Il a plusieurs fils ou c'est forcément Baron ? Il a plusieurs fils, Trump ? Parce qu'il n'est pas cité, là. Voilà. Non, c'est Donald Trump Jr. C'est un autre, alors. Donc il y en a un qui s'appelle Donald Trump Jr., son fils. D'accord. Donc il y a Baron. Baron, c'est le très grand, là. Et il y a un Donald Jr. À quoi il ressemble ? Donald Trump Jr. Il y a Baron, il y a Eric et il y a Donald Trump Jr. Trois fils et deux filles. Pop, pop, pop. Ok. C'est lui. C'est le jeune homme, là. Il est né en 77. C'est le fils aîné. Donc de Trump et de Ivana Trump. Voilà. C'est le grand frère d'Ivanka et le grand frère d'Eric. Et il a, voilà. Et sa demi-sœur, c'est Tiffany. Et son demi-frère, c'est Baron. Ok. Et il s'appelle Donald Trump Jr. Donc le fils aîné de Donald Trump s'appelle Donald Trump Jr. Voilà. C'est comme si j'avais appelé mon premier fils Samuel. Samuel Etienne Jr. Voilà. Qui m'appelle, les gars, je suis en revue de presse, moi. Et vous faites quoi, là ? Ils s'en foutent, les gens. Je bosse, moi. Qu'est-ce qu'il fait, c'est un homme d'affaires ? Carrière professionnelle, diplômé en économie, pop, pop, pop. Il travaille avec sa sœur Ivanka et son frère Eric en tant que vice-président exécutif de la Trump Organization. Attends, tu t'appelles Donald Trump Jr. et tu bosses pour la Trump Organization. C'est pratique. En janvier 2017, il prend la direction du groupe à la suite de l'élection de son père à la présidence des États-Unis. Ah, c'est lui qui a pris la direction du groupe. Il détient une participation dans America Bitcoin, société de minage de crypto-monnaies fondée avec son frère Eric. Il a également fondé avec ce dernier en août 2025 une société d'acquisition à vocation spécifique destinée à rechercher des cibles de fusion dans les nouvelles technologies santé ou logistiques. Très actif dans l'économie anti-woke. C'est quoi l'économie anti-woke ? Il s'est associé à la société de capital risque 1789 Capital et siège au conseil d'administration de Public Square, place de marché anti-woke et anti-avortement. C'est quoi le business anti-woke et anti-avortement ? Je ne l'ai pas là. Du marchand d'armes en ligne Grab a Gun. Ok. Sa fortune est passée de... Waouh ! C'est un détail intéressant. Sa fortune est passée de 50 millions de dollars en 2024. Oh, qu'est-ce que tu fais avec 50 millions de dollars aujourd'hui ? Rien. Hein. À 500 millions en 2025. Après le retour de son père à la présidence des États-Unis. À quel moment le gars il fait x10 sur sa fortune en un an ? Je pose une question.
Je pose la question. On peut pas poser la question.
Je pose la question. J'ouvre le débat. Hein. Donc il fait x10 en un an après le retour de son père à la tête de la Maison Blanche.
Je pose la question. On peut pas poser la question.
Oh. Ok. C'est bien, c'est bien de s'intéresser un petit peu à toutes ces histoires-là, c'est intéressant. Ah, okay, même l'arbre généalogique. Ah là là. Ouais. Donc, je reviens à mon histoire de soda. Donc, c'est lui, il a un podcast en plus. Il a un podcast. Ces effets des sodas dissant sucre sur l'herbe conduiraient Trump à conclure qu'il doit forcément tuer les cellules cancéreuses dans le corps, a rapporté le médecin face au fils de Trump. Visiblement amusé par le raisonnement de son père. Donald Trump Jr., je serais toi, je me moquerais pas trop de ton papa quand même. Je pense qu'à la base, une partie de ta réussite vient de là. Je dis ça, je dis pas ça parce que l'entreprise dans laquelle tu as bossé après tes études porte le nom de ton père. Hein. Je dis pas ça parce que ta fortune a fait x10 en un an quand il est revenu au pouvoir à la Maison Blanche. Je dis pas ça. Mais je serais toi, je me moquerais pas trop de daddy, hein, s'il te plaît. Visiblement amusé par le raisonnement de son père. T'amuses pas trop quand même. T'amuses pas trop. Je ne vais même pas débattre de ça pour l'instant, a poursuivi le médecin trumpiste. Ah, il y a un extrait.
Office, so he'll pepper Bobby and I usually yeah. Go to the meeting.
Allez, tout le monde parle anglais ici, hein. Let's go.
Office, so he'll pepper Bobby and I usually yeah. Go to the meetings together. So he'll first start off with candy bars, that little candy jar he'll call it. He'll hit the red button.
Yeah.
And then comes the diet soda pop, which is yeah, ouais. Your dad argues that diet soda is good for him because it kills grass.
Donc le médecin le dit, hein, diet soda is good for him because it kills grass, donc ça tue l'herbe.
It's poured on grass, so yeah. Therefore must kill cancer cells inside.
Donc si ça tue les herbes, donc ça doit sûrement tuer les cellules cancéreuses. Je vais aller me chercher un soda light, moi.
The body. So he'll try, please. I'm having to argue this right now.
Yeah, yeah.
You know, we were on Air Force One the other day, and I walk in there because he wants to talk about something, and he's got an orange soft drink on his desk.
Fanta. He drinks Fanta.
Ah oui, après il y a une suite avec Fanta que je vais ouvrir dans un instant. Ça parle de Fanta aussi. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le médecin rappelle qu'il a un bouton rouge dans son bureau de la Maison Blanche. Il a un bouton rouge, alors je ne me rappelle plus si c'est... il appuie sur un bouton rouge sur son bureau et il y a un soda tout de suite. Alors je ne sais pas si c'est, on lui apporte un soda ou il y a un truc qui s'ouvre, mais il y a une histoire de bouton rouge dans le bureau que j'avais déjà entendu effectivement. The red button. Alors heureusement... Alors, d'après mes infos, mais elles sont fausses bien sûr, avant c'était le bouton pour l'arme atomique et ils l'ont remplacé. Voilà, ils l'ont remplacé parce qu'ils se sont dit ouais c'est un peu chaud quand même, ils l'ont mis dans un autre bureau. Mais à la place ils ont mis Coca et ça lui va très bien.
I didn't want to say the brand name on the podcast. He's got a Fanta on the desk and I say are you kidding me? So he starts to like sheepishly grin. He goes you know this stuff's good for me, it kills cancer cells. And then he tells me it's fresh squeezed. So how bad could it be for you?
Fresh squeezed, le Fanta. Donc il dit à son médecin, mais t'inquiète, c'est fraîchement pressé, quoi. Le Fanta. Voilà. Donc c'est bon aussi contre le cancer.
Okay, but then.
Moi, je serais le fils, je rigolerais pas trop. Hein. Pardon, monsieur Donald Trump Jr., mais je pense que vous êtes là. Moi, je me moquerais pas trop du père quand même. Ce petit rire, là, attention.
Maybe he's onto something, because I will say this. I know a lot of guys pushing 80.
Là, il dommage qu'il soit coupé parce qu'il est en train de quasiment justifier son père. Là. On continue avec l'article. Donc, parce que ça part avec du Fanta. La séquence hallucinante ne s'est pas arrêtée là. Mehmet Oz, donc c'est le médecin que vous avez vu à gauche, là, a ensuite partagé une autre anecdote sur le locataire de la Maison Blanche et les sodas remontant à leur voyage à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Il avait un Fanta sur son bureau et je lui ai dit « Tu te moques de moi, tu vois, le médecin ?» Voilà. Alors il a esquissé un sourire penaud et m'a répondu « Tu sais, ce truc, c'est bon pour moi, ça tue les cellules cancéreuses. » Donc là, c'est même plus du Fanta, c'est même plus du soda light. Hein. On dirait que c'est du Fanta de chez Fanta, quoi. Pire, Trump pourrait même plaisanter sur le fait que le Fanta, fabriqué à partir de jus d'orange concentré, ne pouvait pas être mauvais pour la santé puisqu'il était fraîchement pressé. Loin d'être choqué par ces propos rapportés par Mehmet Oz, Donald Trump Jr. en a remis une couche. Peut-être qu'il a mis le doigt sur quelque chose. Ah, c'est là où ça a été coupé. A affirmé le fils aîné du président, estimant qu'il était rare de voir des hommes approchant les 80 ans avec le même niveau d'énergie, d'endurance et de mémoire que son père. Le fiston est à deux doigts de valider le fait que le soda light tue les cellules cancéreuses. Il est important de rappeler que contrairement à ce qu'affirme Trump, nous dit l'article, les sodas sont loin d'être bons pour la santé, comme le rappelait par exemple Science et Vie dans un article d'octobre 2025. Sous leur forme sucrée classique, ils peuvent entraîner diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. Et sous leur forme light ou sans sucre, la présence d'édulcorants artificiels qui peut perturber la flore intestinale et, intestinale, pardon, et le métabolisme. Dans des recherches de l'université chinoise de Sochaux, citées par Science et Vie, révèlent par ailleurs les effets délétères de ces boissons sur le foie, puisqu'elles favorisent l'apparition de stéatose hépatique non alcoolique, maladie marquée par l'accumulation excessive de graisse dans le foie. Voilà. Ok. Sochaux en Chine. Oui, non, c'est pas le même. C'est pas le FC Sochaux. Non, c'est Sochaux. Je parle pas bien chinois. C'est pas Sochaux, c'est pas le FC Sochaux. Voilà. Donc voilà. Comme le dit Rex, maintenant on sait aujourd'hui où Trump trouve toute cette énergie. Ok, ok.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ?
Dans le Fanta. Dans le Fanta. Allez, je vous lis et on enchaîne. Attends. Du coup, on a pu remettre notre petit jingle. Allez, je vous lis, on enchaîne. Après, on va partir sur les sondages. T'as combien de voix enregistrées ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une super table de mixage. Peut-être qu'il prend des bains de Fanta, d'où la couleur de peau. Ah, le côté orange ? Non. Puis sinon, moi, je bois des litres de café depuis 45 ans, je dirais. Je devrais tout couleur café. Hein. J'aime ta couleur café. Pom, 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 pom. Salut David. Pain, 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 pain. Pain, pain, pain. Merci Chatou, grâce à toi, je vais pouvoir continuer à boire du Coca Zéro. Oh, merci Mélissa pour ton message qui me fait bien plaisir. Mélissa MBND0695, je parle de toi. Merci beaucoup. Je vous lis encore un petit peu. Il y a Gécard qui me dit après, quand tu vois son secrétaire d'État à la santé, et le monsieur qui est un peu anti-vax là, et le niveau de compétence de ce dernier, pas étonnant d'entendre ce genre d'ânerie. Kennedy bis, c'est-à-dire Sugar. Ah ! Ah, parce que le secrétaire d'État à la santé, c'est un Kennedy, tu as raison. Ah, Tiller 76, cet excès de bonne humeur me réjouit. Tu vas voir. Mais dis donc, Tiller, dis donc, pour quelqu'un qui n'est pas là depuis longtemps, tu me sembles un petit peu d'humeur chafouine, là. Tu vas nous mettre un peu de positivité là-dedans. J'ai un Tiller de quelque chose, 76, qui vient d'arriver dans le chat. Il a 7 messages négatifs de mauvaise humeur. On dirait un de mes enfants qui est un peu bougon, tu sais pas trop pourquoi. Son frère lui a piqué un jouet, machin et tout. Je lui dis, attends, il y a plus grave dans la vie. Tiller, tu vas élever ton niveau de jeu, hein. Hein, c'est parce que tu commences par Trump. C'est le concept d'une fausse ouverture, nounouille. Hein, j'ai mis un quart d'heure pour vous expliquer le concept de fausse ouverture. J'avais prévu de commencer par les sondages, sauf que la commune m'a dit, ah, mais t'as pas vu Trump. Voilà, c'est un petit plaisir. Pas casser les couilles comme ça, en vrai. Ah, oh. Hein, y a d'autres rendez-vous d'infos sur Internet. Ça s'appelle une fausse ouverture. C'est un petit plaisir. T'as vu, l'actu est tellement anxiogène tous les jours. C'est bien de se faire un petit sourire de temps en temps. Bon. Enfin. Oh. Tiens, tu m'as énervé. Je me barre. En fait, je voulais pas me barrer, je voulais chercher un Coca Light pour faire la blague. Et j'en ai pas trouvé, j'en ai plus. Je voulais faire la vanne de prendre un Coca Zéro et j'en ai plus. Voilà. Du coup, j'ai pris un Red Bull Light. Il paraît, je sais plus où j'ai lu ça, que ça tue les cellules cancéreuses. Ah. Et hop, plus de cancer. Merci Trump. On enchaîne. Allez, on va parler de sondage. J'espère que ça ira à Monsieur Tillard. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les sondages? Ben, on se pose plein de questions sur les sondages. Voilà. Pourquoi on en a autant? Pourquoi on va en avoir autant à l'approche de la présidentielle? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que parfois, ils se trompent? Est-ce que parfois, ils ont raison? Let's go. C'est un papier dans la croix que je vous montre tout de suite. Des sondages bien encombrants. On en a des sondages. Voilà. Trop peut-être. À un an de la présidentielle, la Croix explique comment les enquêtes d'opinion sont réalisées et pourquoi elles vont se multiplier jusqu'au jour du scrutin. Eh ben, est-ce que ça fait changer les votes? Storm, très bonne question. Voilà. Est-ce que ça peut confiner à la manipulation de l'opinion? Très bonne question, c'est en train de vous lire. Voilà. À un an de la présidentielle 2027, la publication de sondages politiques est le présage d'une campagne qui se jouera sous l'influence des enquêtes d'opinion. Voilà. C'est la question, est-ce que ça influe sur l'opinion? Pourquoi une telle prolifération? Comment sont-ils fabriqués? Que des bonnes questions. Questions clés pour comprendre les enjeux éthiques et politiques d'une pratique contestée. Comment les sondages envahissent la vie politique? Vous voyez, c'est un dossier de deux pages dans la Croix. Hein. Lisons. Je pense qu'on aura plein de data, plein d'infos, puis après on échangera là-dessus. Pour chacune des personnalités suivantes, dites-nous si elle ferait un bon ou mauvais candidat à la présidentielle, ou encore si le premier tour de l'élection avait lieu dimanche prochain, alors que c'est dans un an, vous le savez, pour lequel des candidats suivants voteriez-vous? C'est parti, à un an de la présidentielle 2027, donc en avril, ces deux sondages, baromètre de popularité Odoxa et enquête sur les intentions de vote d'Elab, publiés fin mars, ont lancé le feuilletonnage sondagier de la pré-campagne. C'était les premiers sondages sur la présidentielle, quoi. Les municipales sont passées, on est juste à un an du scrutin, il nous a semblé intéressant de donner ce coup de projecteur, explique Bruno Jeudy, directeur délégué de la rédaction de La Tribune dimanche. Ce ne sera sûrement pas le dernier. La production de sondages politiques a explosé ces dernières années. Si vous avez l'impression qu'il y en a de plus en plus, ça n'est pas qu'une impression. Passons de 200 pour la présidentielle de 2002 à 400 10 ans plus tard, donc c'est x2, et plateforme pour les deux derniers scrutins à près de 450. Avec un président sortant qui ne se représente pas, un paysage encore très instable, les 12 mois à venir seront propices à de nouveaux records. Cette séquence qui s'ouvre, elle est passionnante en vrai. Là, on va vivre 12 mois d'actualité politique qui va conduire à l'élection d'un nouveau président, d'une nouvelle présidente. Ça va être passionnant à étudier et on va se régaler ici. Pourquoi une telle profusion, se demande Lacroix. En raison de la révolution numérique, les enquêtes en ligne ont progressivement remplacé celles qui étaient réalisées auparavant en face-à-face ou au téléphone. Et donc l'une des raisons déjà, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire et que ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Voilà aussi pourquoi il y en a plus. Aux instituts historiques, IFOP, Ipsos, BVA, CSA sont venus s'ajouter dans les années 2000 de nouveaux acteurs comme Elab, comme Odoxa, comme OpinionWay, ce sont des noms que vous avez déjà entendus, comme Cluster 17. Qui les paye ces sondages, dit Sylgaï. Alors, je vois plein de questions dans le chat. Mais c'est qui paye? Attendez, lisons l'article. Il y a peut-être des réponses dans l'article. Après, s'il y a des réponses auxquelles l'article ne répond pas, on essaiera d'échanger là-dessus. Patience! Au total, une dizaine d'entreprises s'affrontent sur un marché rendu plus concurrentiel par la baisse des coûts de fabrication. N'oublions pas qu'il y a des acteurs économiques derrière les entreprises qui fabriquent ces sondages et qui ont, elles, intérêt à en faire un max. Au total, une dizaine d'entreprises s'affrontent sur ce marché, rendu plus concurrentiel par la baisse des coûts de fabrication. C'est ce que je vous disais, c'est moins cher à fabriquer qu'avant. Pour les instituts qui appartiennent à de grands groupes de stratégie marketing, le sondage politique pèse peu financièrement. Voilà, ça ne leur apporte pas forcément beaucoup d'argent, mais reste un enjeu de notoriété, puisque, évidemment, quand on cite ces sondages dans la presse, en radio, en télé, dans la presse écrite, bien on les cite. C'est Elab, c'est Odoxa, c'est OpinionWay, c'est IFOP, c'est Ipsos, c'est BVA, CSA qui font des sondages sur d'autres choses aussi. Et qui les vendent. Et pour les médias, surtout dans l'audiovisuel, la production de sondages est l'occasion de produire à peu de frais du contenu politique. Et une petite enquête, un petit sondage, t'invites des gens et hop, ça coûte pas cher, et ça discute, et ça te fait du plateau à pas cher. Merci les chaînes info. C'est ce qu'observe le politologue Antoine Bristiel, directeur de l'Observatoire de l'Opinion à la Fondation Jean Jaurès. Donc intérêt pour les instituts de sondage, parce qu'ils les vendent. Intérêt pour les médias, notamment audiovisuels, parce que, allez, ça nous fait une petite discussion à l'antenne. Et intérêt pour les partis politiques, Quant aux partis politiques, la difficulté à faire émerger des candidats naturels les pousse à s'en remettre aux cotes de popularité des prétendants. Tu vois bien qu'il ne faut pas que ce soit machin qui aille pour défendre nos couleurs. Il a la ramasse dans les sondages, alors qu'il y a Jean-Claude, lui, il est au top. Voilà. Comment travaillent les sondeurs ? Très intéressant. Les sondeurs travaillent à partir d'un échantillon de la population, c'est le principe du sondage, un peu comme une prise de sang. Résume le politologue Bruno Cotrès, plus cet échantillon est large, plus la réponse est précise. Quelques grandes enquêtes électorales portent sur des échantillons pouvant atteindre 10 000 personnes. Je crois que il y a des enquêtes du Monde, notamment sur certains trucs qui portent sur ce genre d'échantillons. Donc 10 000, c'est beaucoup. Hein. Les sondages du quotidien portent, eux, sur un panel en général d'un millier de sondés. La marge d'erreur que tous les sondeurs et les médias commanditaires sont tenus d'indiquer dans l'enquête, d'ailleurs, est alors plus grande, évidemment, avec 1000 qu'avec 10 000. À partir des données brutes qui vont être recueillies, les sondeurs procèdent d'abord à un redressement. Donc après, les données brutes sont redressées. C'est là où ça devient un petit peu opaque, parce qu'on ne connaît pas trop, c'est un peu comme les algorithmes, on ne connaît pas les méthodes de redressement de ces résultats bruts. Les sondeurs procèdent d'abord à un redressement dit sociodémographique, qui corrige la sur- ou la sous-représentation de certaines catégories de population dans l'enquête, âge, sexe, niveau social du panel, hein, si le panel n'est pas totalement représentatif, s'il y a trop d'hommes, trop de femmes, trop de personnes âgées, trop de jeunes, etc. etc. Donc il y a une correction à un redressement dit sociodémographique. Ils effectuent aussi un redressement politique dont ils gardent la formule secrète. Exemple, à une époque, du temps du FN notamment, le vote FN était sous-déclaré. C'est-à-dire que quand vous demandiez aux gens interrogés par un sondage, est-ce que vous allez voter FN ? Il y a des gens qui votaient FN qui disaient non. Il y avait un vote FN, je parle volontairement du FN parce que ça a un peu changé avec l'évolution de ce parti et le RN, qui s'est normalisé, vous le savez. Le vote FN était sous-déclaré. Et quand les sondeurs s'en sont rendus compte, c'est-à-dire qu'en gros... dans leurs enquêtes, ils avaient des scores du FN et les élections arrivaient et c'était toujours au-dessus. Du coup, ils ont fait un redressement politique dont ils gardent la formule secrète. Voilà, ça, c'est un peu au doigt mouillé. Hein. Voilà. Pour l'essentiel, ils prennent en compte le vote des répondants lors du précédent scrutin. Ils donnent aussi un poids supplémentaire aux intentions de vote qui se déclarent sûrs d'aller voter. Alors, rappelons que effectivement, comme vous êtes plusieurs à me poser la question, mais est-ce qu'il y a des différences entre le RN et le FN ? Ah oui ! Ah oui ! Attendez, c'est pas du tout la même chose. Hein, parce que, ouais, il y a des gens moi j'entends des gens parfois qui disent, ouais, le RN... oui, c'est pas pareil du tout, Samuel, t'as rien compris. Oui, alors c'est... Oui, d'accord, c'est les mêmes, c'est Marine Le Pen, tout ça et tout. Oui, mais... Non, mais le programme n'a pas changé. Non, mais c'est pas du tout la même chose. Et moi, je dis, vous avez raison. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein, c'est pas du tout la même lettre. R, N. R. F, N. F. Le R, c'est pas le F. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc voilà, vous avez tout à fait raison. Je peux continuer ? Donc ce dispositif complexe de redressement, vous l'avez compris, est jugé peu scientifique. C'est un truc un petit peu au doigt mouillé, quoi. Par une partie du monde de la statistique, si la controverse est technique, elle est aussi très politique. C'est intéressant. Donc on a déjà la collecte des données brutes, et puis certains vont me dire dans le chat, alors 1000 personnes seulement, waouh ! C'est pas fou, même 10 000, voilà, donc après c'est une science hein, qui s'appelle la statistique. Et puis après, il y a des redressements, il y a des correctifs. Quoi. Ah oui, effectivement, Poupouton a raison, la lettre N, elle ne bouge pas. Dans les deux, il y a N. C'est vrai, c'est une bonne remarque. Donc, controverse technique mais aussi politique, le député LFI Antoine Léaumont a rédigé en 2025, en juin, le rapport d'une mission d'enquête parlementaire sur l'organisation électorale. L'auteur y fustige la faible qualité des panels, voilà, et ses redressements qui, loin de corriger les biais, les aggravent. Nombre d'exemples à l'appui, il démontre que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est souvent sous-représenté, par exemple. Il déposera cette semaine une proposition de loi pour encadrer et même interdire certains sondages électoraux. C'est intéressant. président renaissance de cette mission, Thomas Cazenave, se démarque de cette charge dans un point de vue introductif du rapport. Lui dit « Oui, des interrogations existent, mais elles ne remettent pas en cause la fonction même des sondages et leur professionnalisme. » Un avis que partage Bruno Cotrès, qui était cité un peu plus haut, donc qui est un politologue. Les instituts officiels sont sérieux, ils ont un code éthique et une épée de Damoclès au-dessus de la tête, la commission des sondages. Ah ! Ils sont forts, la croix, parce que c'est un... Ah ! Un petit shiny. Ah ! C'est quoi, c'est un contournement de ban ? Ah oui, c'est un contournement de ban. Alors, il y a des gens qui, ici, ne respectent pas le cadre éditorial de modération, voilà, et puis bon, qui s'ennuient un peu et qui veulent quand même parler avec nous. Voilà. Donc là, il y a un message assez sympathique. Nous avons un détecteur de contournement de ban, et là, il va falloir que tu recrées un compte. Mais on t'embrasse et on t'envoie plein d'amour. Donc, La Croix, qui est un journal très didactique, je dirais pédagogique, quoi, du coup, nous dit, mais alors, c'est quoi le rôle de cette fameuse commission des sondages ? Elle veille sur l'ensemble des sondages électoraux rendus publics. Tous les instituts qui souhaitent en produire ont l'obligation légale de se déclarer auprès de cette commission et de transmettre des notices pour chaque sondage consultable sur le site internet. C'est intéressant. Les instituts de sondage en France, ils sont obligés de transmettre à cette commission des notices pour dire comment ils font le sondage. Si très peu de manquements ont été relevés en 2022, la commission dit assurer une veille qui va bien au-delà de ses remontrances officielles. La plupart des instituts ne rendent pas publiques leurs méthodes de redressement, reconnaît le secrétaire général de la commission, mais nous les connaissons. Hein. Il y a des règles à respecter, des exigences de traçabilité de manière aléatoire, et quand un résultat surprend, nous sommes amenés à demander la totalité des fichiers de données, ainsi que la formule de redressement, et on refait l'ensemble des calculs. Donc ces instituts de sondage sont un petit peu sous surveillance, nous dit l'article. Ok, c'est plutôt bien ça. Quel usage raisonnable peut-on faire des sondages ? Bonne question. Lisons. Je suis en train de combattre mon cancer, moi. Merci Trump. La commission insiste régulièrement sur la prudence avec laquelle les résultats doivent être interprétés. Ah, on va être tous d'accord là-dessus. Hein. Les sondages ne sont qu'un instrument d'analyse de l'opinion, un instant T, un moment déterminé, et non un outil de prévision des résultats électoraux. En un an, il peut s'en passer des choses, me diront-ils, bien sûr. Mais c'est bien là le problème. Ah. La commission donc dit qu'il faut interpréter les résultats des sondages avec prudence. Voilà. Et c'est bien là le problème, nous dit La Croix. Les chaînes d'info continuent. Pardon, j'avais pré-shot. Je vous avais dit tout à l'heure que parmi les plus gourmands en sondage, il y a notamment les chaînes d'info continuent. Parce que ça fait du plateau à pas cher, ça. Alors, envoyer une équipe de reportage en France ou loin à l'étranger, faire du reportage, ça coûte des sous, ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Par contre, inviter des gars, des filles en plateau pour blablater pendant des heures, ça coûte que dalle. Voilà, il y a même certaines chaînes d'infos qui sont spécialisées là-dedans, quand on fait un modèle économique. Hein. Et ben c'est un peu ce que dit l'article. C'est bien là le problème, les chaînes d'infos en continu notamment font un usage immodéré des sondages d'intention de vote. Sur les plateaux, chroniqueurs, allez, et invités politiques tirent souvent, alors chacun vient se montrer, hein, des conclusions de quelques écarts de points mesurés pour un candidat omettant la marge d'erreur ou comparant des enquêtes d'instituts différents. Le rôle pris par les sondages d'intention de vote est beaucoup trop intrusif dans le débat public qui se focalise sur le jeu politique au détriment des enjeux, regrette le secrétaire de la commission. Vincent Thibault, la parole à la Défense, directeur du département d'opinion des labs, donc un institut de sondage, insiste pour sa part sur la diversité des enquêtes pour ne pas transformer une élection en course de petits chevaux. Ce qui compte, c'est la multiplication des formules, comme les enquêtes sur les préoccupations des Français qui font émerger des thèmes de campagne, par exemple. Ah, c'est intéressant. Pardon, c'est Sansoé, je te lis. Moi, je pense que je pense que tu peux faire ça, ouais. Je pense que c'est OK. La dernière vague de l'enquête électorale Ipsos publiée le 13 avril révèle que 86% des sondés disent s'intéresser à la présidentielle, illustrant ainsi la centralité croissante de ce scrutin dans la vie politique. Une tendance qui renforcera à coup sûr la pression des sondages. Voilà. Et c'est pas tout. Hein. On a un éclairage aussi sur le fait que les sondages d'avant-présidentiel, souvent, sont loin du compte, se trompent. Je vous lis. Et on enchaîne avec cet article-là. Merci Sugar pour la réponse assez sensuelle. Question, est-ce que le périmètre de contrôle de la commission est uniquement national ou la commission a-t-elle un poids sur les sondages dont on parle mais qui viennent d'organismes étrangers ? À Scalpin, je pense sans savoir, mais qu'a priori la commission n'a de contrôle que sur les sondages des instituts français. Quoi. Merci Coucou Dev. Merci Alien26, merci Christophe. F71. Et attention au désherbant quand même. Hein. Merci Donis, merci Julio Franchute. Merci Duduche du Rocosard, c'est incroyable. Merci Camille pour l'abonnement offert à Enela. Merci Carole CGM. Re. Je vous lis. En vrai, pour moi, ça devrait être interdit de faire des sondages d'intention de vote, ou en tout cas de les voir à la télé ou dans les journaux, parce que ça fait que les gens changent leur vote, que ce soit pour faire barrage à tel ou tel parti. Après, est-ce que c'est totalement pas inintéressant que les Français sachent à peu près les dynamiques des partis politiques ? Je vous lis. Je vous lis. Il se trouve que les sondages, me dit RicoTime, sont plus souvent là pour forger l'opinion que pour la retranscrire. Alors ça veut dire que les sondages sont manipulés, tu veux dire. Ça veut dire que les gens que les instituts de sondage ou ceux qui les commandent manipulent les résultats. Alors ça va un peu plus loin que l'article là. Mais là, il faudrait trouver des éléments pour le prouver, ce que tu dis. Non pas, je dis pas que c'est faux, hein, mais je dis que là, on n'a pas d'éléments. Hein. C'est vrai, me dit Michdej, j'espère que tu vas bien, que les sondages invitent parfois à voter stratégique plutôt que pour le programme qui est le plus en adéquation avec ses idées. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Je suis pour les sondages, me dit Alchimiste, mais je trouve que chaque enquête devrait être publiée avec les commentaires indépendants d'un économètre statisticien qui révélerait les biais possibles. Un jour, l'IFOP m'a appelé pour un sondage de popularité des députés après la dissolution, me dit Marshmallow. Mais quand je ne connaissais pas le député, il voulait quand même que je donne une réponse bon avis ou mauvais avis sur la personne. C'est un petit peu ennuyeux. C'est un manque de rigueur. Ouais. Est-ce qu'il y a un sondage sur combien de personnes vont voter pour toi à la présidentielle, me dit Dino. Non, parce que pour l'instant, ma candidature est masquée. J'avance tel un shinobi, un ninja, dans les herbes hautes. Voilà, et je ne révélerai ma candidature à la présidentielle 2027 que dans la dernière ligne droite, hein, avec un effet waouh, un effet de sidération, hein, pour prendre la classe politique par surprise. Hein, et donc voilà, j'attends. Pour l'instant, je suis dans les herbes hautes. Ça ne te gratte pas le cul, les herbes hautes ? Non, parce que j'ai mis un pantalon. Voilà. Par contre, j'ai pas emporté de coca zéro, parce que si j'en renverse, ça va tuer les herbes hautes. Voilà. Et après, on va me voir. Donc, faut juste que je fais attention à ne pas renverser. Gaffe au tic quand même. Il faudrait faire un sondage pour ou contre les sondages. C'est pas faux. Alors lisons maintenant l'encadré là sur ces sondages d'avant présidentiel, souvent loin du compte. As-tu déjà couru un marathon, Samuel? Alors le gros flex, hein, le gros flex. À ce jour, j'en ai couru entre. Oh, je me le raconte tellement, mais si je suis devenu présentateur, c'est quand même que j'ai un énorme ego. Voilà, j'en ai couru entre 23 et 25. Voilà. Donc oui, je connais un peu cette course que j'ai beaucoup aimée. Je manque un petit peu de temps aujourd'hui. Voilà, et de motivation, parce qu'aujourd'hui je préfère streamer, mais j'ai fait un peu de course à pied, ouais, à une époque, et d'autres petites courses. Lisons cet encadré des sondages d'avant présidentiel, souvent loin du compte. Les derniers sondages prédisent un duel serré, donc là on parle de la prochaine présidentielle, entre Édouard Philippe. Mais non, c'est un troll. Ah non, à une époque j'étais vraiment passionné de course à pied. Donc, les sondages, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Un duel serré entre Édouard Philippe et Jordan Bardella pour la présidentielle de 2027. Ok. Alors, il y a Velkas qui dit « Mais qui veut voter Édouard Philippe, par pitié ?» Après, tu pourrais aussi dire « Mais qui veut voter pour Jordan Bardella, par pitié ?» Ou pas, hein. Mais ces 25 dernières années, les enquêtes d'opinion publiées à 12 mois du scrutin ont rarement donné le scénario gagnant. Voilà. Donc ça peut permettre de relativiser un petit peu le truc. À un an de la présidentielle 2027, les sondages se multiplient déjà. Voilà. Le dernier d'entre eux, diffusé par l'Institut Elab fin mars, laissait présager une victoire serrée d'Édouard Philippe, fondateur du Parti Horizon, face au potentiel candidat du RN, Jordan Bardella. Pourquoi potentiel? Puisqu'on attend la décision de la justice sur le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Et si la peine d'inéligibilité est confirmée, Marine Le Pen ne pourra pas y aller, vous le savez, ce sera Bardella. En revanche, si la peine d'inéligibilité est supprimée ou réduite et que c'est OK pour la présidentielle, Marine Le Pen sera sans doute la candidate du RN. Donc on attend avec impatience ce jugement qui va tomber, le chat va me rappeler, mais au début de l'été, je crois. Mais, demande la Croix, peut-on se fier à des études d'opinion publiées si loin de l'échéance? Un coup d'œil dans le rétroviseur, vers le 7 juillet. Vous êtes trop fort. Un coup d'œil dans le rétroviseur s'impose. Lors de la dernière présidentielle de 2022, les sondages avaient prédit 12 mois avant le résultat final, la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour. Bon, bah là, pour le coup, ils ne se sont pas trompés. Mais il s'était montré bien moins fiable sur le premier tour, par contre, prévoyant que la candidate frontiste arriverait en tête, alors que Macron était devant. Jean-Luc Mélenchon était, lui, donné dans les sondages à 11% d'intention de vote, alors qu'il en a obtenu le double. Donc ça, c'était énorme comme différence. Hein, voilà. Là, on est sur les sondages à un an avant 2022, donc si je comprends bien, 2021. Après, en un an, il peut se passer plein de choses aussi. Tandis que le score de Valérie Pécresse, un an avant, était estimé dans une fourchette allant de 9 à 13,5% et elle a fait 4,8%. Voilà. Poupouton, il est en colère. Les sondages, c'est du bullshit et c'est souvent nous qu'on les paye, soyez colère. Ok. J'entends. Comment est-ce possible de se planter autant? Après, c'est une photographie d'un instant T. Imaginons que les sondages soient fiables. Imaginons que les sondages soient fiables. Imaginons. C'est pas le cas, mais imaginons. C'est un an avant. En un an, il peut s'en passer des choses. Une campagne, c'est fait pour convaincre les Français. Si Mélenchon est donné à 11% un an avant et qu'il arrive à 22% au premier tour un an après, c'est peut-être aussi parce que sa campagne, elle a fonctionné. Ah, il y a ça aussi. Si on remonte un petit peu plus loin, aucun sondage ne donnait vainqueur Emmanuel Macron à un an du scrutin de 2017. Aucun sondage ne donnait Macron avant. Un an avant, gagnant en 2017. De fait, l'ancien ministre de l'économie, qui venait à peine de lancer son mouvement En Marche, n'était qu'un candidat hypothétique parmi d'autres. Un an avant 2017, on était au tout début de l'ascension de Macron. Les enquêtes estimaient que l'ancien maire de Bordeaux, Alain Juppé, serait plus à même de battre Marine Le Pen. Celui-ci a finalement été écarté lors de la primaire de la droite au profit de François Fillon. Battu dès le premier tour à la suite notamment des révélations sur les emplois fictifs exercés par sa femme. Exactement. En 2011, François Hollande, bonne idée à droite d'écarter Juppé au profit de Fillon. Bah oui, mais bon, il ne savait pas pour les emplois fictifs. Ah oui. Ah oui aussi. Moi, je ne veux pas... Hein. Bon alors. En 2011, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen faisaient la course à jeu égal. Dominique Strauss-Kahn, quand même, était donné grand favori. Mais après, il y a eu des trucs. Eh oui. Était donné grand favori avant son arrestation à New York le 15 mai 2011 pour accusation d'agression sexuelle. Bon, bah le sondage, il peut pas prévoir ça en vrai. Hein. La chambre, le peignoir, tout ça. Eh oui, il est sorti de la douche. Eh oui. Mais oui. L'élection s'est finalement soldée par la victoire de François Hollande. Hein. Sinon, ça aurait pu être Strauss-Kahn. En 2006, les sondages prévoyaient déjà un duel pour 2007 entre Sarkozy et Ségolène Royal, mais imaginaient que la candidate socialiste ferait la course en tête et ils n'avaient pas prédit la percée de François Bayrou, arrivé troisième avec plus de 18,5% des suffrages. En fin de l'élection, le fossé et les prédictions à la réalité étaient le plus important, et celle de 2002. Voilà, donc ça c'est la fameuse élimination de Jospin au premier tour. Aucun sondage n'avait vu venir la qualification au second tour du candidat frontiste Jean-Marie Le Pen. Là, on était clairement sous une sous-déclaration du vote FN à l'époque, des gens qui allaient voter FN. C'est-à-dire que là, c'est évident que dans l'incapacité des instituts de sondage à prévoir la qualification de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, il y avait clairement un truc où les gens interrogés par les instituts de sondage ne disaient pas, ne sous-déclaraient leur potentiel vote RN, FN. Pardon. J'oublie que c'est deux choses totalement... différentes. Désolé. Aucun sondage n'avait vu la qualification au second tour de Jean-Marie Le Pen, qui était alors crédité de 15 à 20 points de moins que le Premier ministre Jospin et le président sortant Chirac, dont le duel paraissait inexorable jusqu'au désormais célèbre 21 avril 2002, date à laquelle Jean-Marie Le Pen évinça Lionel Jospin. On se souvient de Jospin interrogé par un journaliste avant le premier tour, qui lui demandait, mais imaginez, vous n'êtes pas au deuxième tour. Et Jospin avait répondu, on a écouté cet extrait il n'y a pas longtemps, mais j'ai beaucoup d'imagination, mais quand même, il ne faut pas déconner. Voilà. Alors, est-ce que ces faits qu'on vient d'évoquer révèlent un manque de fiabilité des sondages? Ou viennent-ils rappeler que rien n'est jamais joué d'avance en politique? Sans doute un petit peu des deux. Voilà. Un problème de fiabilité et aussi le fait qu'en un an de politique, il peut se passer bien les choses. Ce n'est pas parce qu'ils se trompent, mais parce qu'il donne une réalité à un instant T au moment où les personnes sont interrogées, estime par exemple Martial Foucault, professeur de l'université à Sciences Po. À un an de l'élection, les électeurs ne connaissent pas encore tous les candidats, ont des représentations qui peuvent changer au gré de la campagne, du fait d'une déclaration, d'une erreur, lors d'un débat, d'une affaire d'emploi fictif, d'une histoire de peignoir, de salle de bain, etc., d'une révélation. Les campagnes électorales comptent encore beaucoup. Toutes les études d'opinion publiées en amont 2027 sont donc à prendre avec précaution, et ce d'autant plus que de nombreux flous demeurent, notamment sur la possibilité pour Marine Le Pen de se présenter par exemple, ou encore sur l'éventualité d'une candidature unique du côté du bloc central et de la droite. À un an de la présidentielle, il y a plein de questions en suspens. Est-ce que c'est Marine Le Pen qui ira au Bardella? Est-ce qu'il y aura un candidat unique pour le bloc de centre, de droite, centre-droite? Est-ce que la gauche pourrait s'unir autour d'un candidat, même si ça semble un peu compliqué? Ça en fait des questions. Voilà. Allez, je vous lis maintenant. MMG me dit, après, je suis de moins en moins sûr de voir Marine Le Pen se présenter vu la popularité de Bardella. Ce que dit MMG est très intéressant. C'est la question où Marine Le Pen... se voit sauvé par la justice et sa peine d'inéligibilité réduite ou supprimée fait qu'elle peut se présenter. Voilà. Et là, il n'y a aucun monde, je peux me tromper, hein, mais il n'y a aucun monde où Marine Le Pen, en capacité d'y aller, n'y va pas. Le parti n'a jamais été aussi haut dans les sondages. C'est le combat d'une vie. C'est aussi la poursuite du combat de son père. Voilà. un monde où Marine Le Pen pouvant y aller, laissant sa place comme un Bardella en estimant qu'il a plus ses chances, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Pas un instant. Alors, quelle serait la réaction de Bardella? Quelle serait la réaction de Bardella à ça? Moi, je pense, je n'imagine pas non plus Bardella se dresser contre Marine Le Pen en mode « Ah, mais je suis pas d'accord. » Je n'y crois pas non plus. Après, je peux me tromper, hein, mais je n'y crois. Mais alors, pas du tout, quoi. Regarde l'histoire du parti, l'histoire de Marine Le Pen, je n'y crois pas. Mais ça va être très intéressant, ça veut dire que début juillet, on aura une info importante à commenter. Alors, si elle est déclarée inéligible, fin du débat, bien sûr. Mais Bardella ne va jamais s'écraser, il sait qu'il est dans une position avantageuse. C'est plus compliqué que ça. Bardella, s'il se dresse contre Marine Le Pen, il va scinder. Il va provoquer une guerre. Il va couper l'électorat RN en deux. Si Marine Le Pen veut y aller et que Bardella dit « Regarde les sondages, c'est moi qui dois y aller », Marine Le Pen va partir en guerre, voilà, parce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est une femme politique combative. Elle part en guerre. Là, tu coupes l'électorat en deux. Voilà, fin des espoirs du RN d'arriver au deuxième tour, voire de gagner la présidentielle. Voilà. Il n'y a aucun risque que ça se passe comme ça. Aucun risque. Après, c'est la politique, hein, tout peut se passer, bien sûr. Et là, surprise, Poutou l'emporte, me dit Michdej. N'oubliez pas que l'histoire du RN et surtout du FN a été émaillée de plein de tentatives de rébellion, hein, de cadres du FN notamment qui ont tenté de se dresser contre la famille Le Pen, notamment contre Jean-Marie Le Pen, pour faire exister une autre parole d'extrême droite ils ont tous disparu. Hein. Les Bruno Maigret, je ne sais plus qui on pourrait citer encore. Ils voulaient leur part du gâteau. Ouais, ben ils ont même pas eu un biscuit. Philippot aussi. Alors non, il n'avait pas atteint la popularité de Bardella à l'époque. Mais n'oubliez pas que la popularité de Bardella aujourd'hui dans les sondages, hein, on vient de voir qu'il fallait prendre ces sondages avec beaucoup de prudence, hein, elle est aussi liée au fait que Marine Le Pen est inéligible aujourd'hui. Et oui. Une partie à définir, à déterminer de la popularité de Bardella, elle est liée au fait qu'aujourd'hui, Marine Le Pen ne peut pas se présenter. Mais si, début juillet, on apprend que Marine Le Pen peut se présenter, ben ça change tout. Ça change tout. Et Sugar me dit, oui, mais rien ne dit que sa popularité perdue reviendra un jour. Mais elle n'a pas perdu sa popularité, Marine Le Pen. Attendez, là, on se trompe complètement de débat. De dire que Bardella est un peu au-dessus de Marine Le Pen dans les intentions de vote, c'est oublier que les deux qui sont en tête des intentions de vote au premier tour, c'est Bardella et Le Pen. Ils sont tous les deux très très haut. Bardella est un peu plus haut, mais Marine Le Pen est très très haut. Il y a zéro perte de popularité de Marine Le Pen auprès de son électorat. Zéro. Ils ont deux candidats qui fonctionnent. Ce qui est quasiment du jamais vu dans l'histoire politique récente de notre pays. Tout ça va être passionnant à suivre, en tout cas. Allez voir les chiffres. Il suffit étayer ce que je viens de dire, allez voir les chiffres des intentions de vote pour Marine Le Pen dans les enquêtes où elles sont où elle est mesurée. D'ailleurs, il y a un truc très intéressant, c'est que parmi les enquêtes récentes, il y a des enquêtes qui ne testent même pas Marine Le Pen. Et pas parce qu'il s'est effondré dans les sondages, Marine Le Pen, mais parce qu'il y a les instituts de sondage qui disent « Ouais, on ne croit pas du tout à la décision de justice en appel qui pourrait lui permettre de se présenter. » On la teste même plus. Mais en cas de décision de justice favorable pour Marine Le Pen, nouvelle donne, elle revient dans les enquêtes, vous allez voir. Et vous allez voir ce que vous allez voir. « Et Bardella, président, nommant Le Pen Premier ministre, elle acceptera jamais. Elle acceptera jamais. C'est impossible à avaler. Ah non, non. C'est elle qui l'a fait monter. Derrière la politique, il y a aussi des hommes et des femmes, quoi. Elle a dédié sa vie à la politique. C'est elle qui a fait monter Bardella. C'est elle qui l'a choisi. Accepter de devenir la première ministre de Bardella et pouvant être déconnecté, sorti de Matignon quand il le veut, hein, puisque le Premier ministre est à la merci du président, et donc pouvant potentiellement être viré comme un malpropre au bout de quelques semaines ou quelques mois, impossible qu'il accepte. Impossible que Marine Le Pen accepte. Impossible. Alors que l'inverse me semble plus imaginable. Alors, c'est poétique fiction. Imaginons que Marine Le Pen soit déclarée éligible par la justice au début juillet. Voilà. Elle dit à Bardella, écoute, bon, c'est ce qu'on avait dit, hein, je peux y aller, donc j'y vais. Donc désolé, pour toi, ce sera la prochaine fois, par exemple. Donc je me présente. Imaginons, poétique fiction, elle gagne. Elle décide de prendre Bardella Premier ministre. Il peut accepter. Après, il prend le risque aussi de s'user politiquement, parce que le poste de Premier ministre, c'est un poste qui est très exposé aussi. Et Marine Le Pen, si elle la joue fine, elle peut faire un peu présidente de tous les Français. On peut imaginer ça, en mode réconciliation, même ceux qui n'ont pas voté pour moi, blablabla, blablabla. Voilà, et de laisser Bardella les mains dans le cambouis, faire le sale boulot des réformes, et puis au moment où il est usé politiquement, le virer et le changer. Donc c'est toujours une prise de risque. Voilà. Bardella, il peut choisir par exemple de rester président du parti, par exemple. Donc ça, ce sera à lui de voir, quoi. Mais ça me semble plus imaginable. Ok, on enchaîne. Ouh, ça fait plaisir. Notre ami Citron Violet qui est en train de nous faire un périple de fou à vélo au Japon entre Osaka et Tokyo, je dis pas de bêtises, c'est ça? Ou Tokyo et Osaka? Voilà. Mais on a eu plaisir à te raid hier, bravo pour ce que tu fais, c'est incroyable. Ouais, sois prudent sur la route, je sais pas comment est la circulation au Japon, mais et c'est une belle aventure. Si vous voulez suivre les aventures de notre ami Citron Violet, la chaîne c'est Citron Violet Collé. Ok, alors c'est quoi le sujet suivant? C'est Lafarge. Ah, l'affaire Lafarge, très intéressant aussi. Si je dis pas de bêtises, merci Golden Sower. Pseudo intéressant Golden Sower, mais bon, on ne va pas partir là-dessus. Mais Samuel, tu sais très bien comment la circulation au Japon. Je ne commenterai pas cette phrase. Donc, à ma connaissance, c'est la première fois qu'une entreprise française est condamné pour financement du terrorisme. C'est une dinguerie, en fait. Plusieurs articles hier, j'ai attendu d'être sûr d'avoir le bon article, je trouve que celui du Monde est assez clair. Lourde peine pour les anciens dirigeants du groupe Lafarge. Donc le groupe Lafarge, c'est un groupe qui, pour moi, qui est dans le BTP, qui fait du ciment notamment, non, je... Vérifions, histoire de savoir de ce qu'on dit. Matériaux de construction. Entreprise française de matériaux de construction, voilà, très ancienne, fondée en 1883. Voilà, filiale du groupe suisse Lafarge Holcim depuis 2015. La société produit et vend dans le monde entier principalement du ciment. Voilà. Donc voilà, et qui donc appartient à un groupe suisse depuis 2015, sachant que l'affaire dont on parle, je crois, date de 2013-2014. Du ciment, des granulats, du béton prêt à l'emploi. Voilà. En 2025. Et c'est ce dont on va parler ce matin. L'entreprise Lafarge est jugée pour avoir versé en 2013 et 2014 plusieurs millions d'euros à des groupes rebelles djihadistes afin de maintenir son activité en Syrie, donc d'avoir financé le terrorisme pour faire du business. Elle est condamnée, et c'est ce dont on va parler ce matin, le 13 avril 2026, donc il y a deux jours, avec un... Donc la société est condamnée. Des millions, ouais.
Combien ?
Des millions. Et son ex-PDG est condamné à 6 ans de prison. Et l'affaire sera rejugée en appel. Alors ça, j'avais pas vu qu'il y avait appel, c'est intéressant. Allons-y. Lourde peine pour les dirigeants, les anciens dirigeants du groupe Lafarge, article du Monde, paru dans la dernière édition. 8 personnes étaient jugées pour avoir versé de fortes sommes à des groupes terroristes en Syrie. Lisons. Article de Soren Silo. Une affaire d'une gravité extrême ayant porté atteinte de façon irrémédiable à l'ordre public et aux intérêts fondamentaux de la nation. Un système organisé, opaque et illégal, du financement du terrorisme pour un montant jamais atteint de 5,6 millions d'euros. Des décisions managériales cyniques, des prévenus qui se défaussent de leurs responsabilités au moyen de dénégations absurdes et d'arguments fallacieux, confinant pour certains à la lâcheté.
Waouh !
Ça, c'est les mots du délibéré. Les mots prononcés lundi par la juge Isabelle Prévost-Després lors du délibéré du procès de Lafarge et de 8 de ses anciens responsables et salariés jugés pour avoir versé de l'argent à différents groupes terroristes en Syrie entre 2013 et 2014, afin de maintenir l'activité d'une cimenterie dans le pays, donc pour que l'activité économique se poursuive, quoi, ont cruellement résonné pendant près de 4 heures qu'a duré la lecture de ce jugement. La lecture du jugement, c'est 4 heures. La juge, elle a lu le jugement pendant 4 heures, quoi. Et après, vous dites, voilà, les streamers, ils streament pendant des heures. La dame, elle pourrait être streameuse. Hein. Qu'a duré la lecture de ce jugement devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. La présidente a même noirci encore davantage cette peinture accablante en établissant un lien direct entre ce partenariat commercial passé par le cimentier avec des groupes terroristes, un partenariat commercial entre une entreprise et des terroristes, au premier rang desquels l'organisation État islamique, Daesh. À chaque fois que tu dis Syrie, mon Syrie s'active et ça te coupe, c'est insoutenable. Ok. Ok Syrie, est-ce que tu peux mettre la chanson Les Sardines de Patrick Sébastien ? On dit OK Siri ou c'est Siri tout juste pour ceux qu'on Siri ? Juste pour, c'est pour un ami. C'est OK Siri ou c'est Siri ? C'est Siri ? Ah, OK, c'est dit Siri. Je refais. Dis Siri, est-ce que tu peux mettre la chanson Les Sardines de Patrick Sébastien ? Je vois ceux qui ont Google, là, je vais vous moquer, c'est parti. OK Google, est-ce que tu peux mettre la chanson Les Sardines de Patrick Sébastien ? Les aromates. Hey ! On continue. Comme le disait une partie civile, donc a dit la juge, victime des attentats du 13 novembre 2015, les chiffres et les décisions financières prises par les coupables dans le présent dossier sont transformés en kalachnikov, en explosifs qui ont tué, mutilé, blessé et dévasté des vies en Syrie et en France. Cet argent donné par Lafarge à ces groupes terroristes, elle s'est transformée en mort. Les peines prononcées à l'avenant de ce constat... ont été à l'avenant de ce constat écrasant. Si les quantum entre 18 mois et 7 ans de prison ferme ont été peu ou prou conformes aux réquisitions du parquet national antiterroriste, le tribunal a eu la main nettement plus lourde concernant l'ancien PDG de Lafarge, Bruno Lafont, 69 ans, et son directeur adjoint opérationnel chargé de la Syrie, Christian Hérault, polytechnicien de 75 ans, en demandant leur incarcération immédiate, là où le ministère public avait requis un mandat de dépôt différé. Incarcération immédiate. Bim, c'est parti en prison direct, hein, les gens dont on parle. Ces deux capitaines d'industrie naufragés ont été condamnés respectivement à 6 ans et 5 ans de prison ferme pour financement du terrorisme, à une amende de 225 000 euros, maximum prévu pour l'infraction, à une confiscation de plusieurs centaines de milliers d'euros chacun, ainsi qu'à une amende douanière de 4,5 millions d'euros pour une autre infraction, la violation d'un embargo à payer solidairement avec les autres prévenus. La magistrate a réservé sa charge la plus lourde à Bruno Lafont, donc Bruno Lafont qui était donc l'ancien PDG, celui qui était allé le plus loin dans la protestation de son innocence. À la différence des autres prévenus, confondus par des milliers de courriels accablants, et donc il y a plein de mails en fait, qui prouvent tout ce qui est venu étayer la condamnation, et des comptes rendus du comité de sûreté de Lafarge évoquant ses paiements, voilà, il y a des preuves, l'ancien PDG, lui, a toujours juré n'en avoir jamais rien su. Il ne lisait pas ses courriels. Madame la juge, j'étais pas au courant. Comment ça, vous n'étiez pas au courant? Vous étiez le PDG. Je lisais pas mes mails. Je faisais mine de venir au bureau pour bosser. Mais en fait, j'étais sur Candy Crush toute la journée.
Qu'avez-vous à dire pour votre défense?
Wallah, c'est pas moi.
Bon bah, acquitté, tu peux y aller. Ah bah, il a dit voilà. Ah bah si, voilà, ça marche.
Waouh. Ouais, ou alors c'était dans mes spams, ouais. Waouh. Ouais. Il y a un avocat qui lui a dit à ce monsieur que ça allait passer, ça. Hein, c'est pas très pro, hein. L'ancien PDG a toujours juré n'en avoir jamais rien su. Il ne lisait pas ses courriels, pas davantage que les comptes rendus du comité de sûreté qui lui étaient transmis sous pli fermé et estampillé confidentiel. Le gars ouvrait pas les enveloppes. Mais on ne dira jamais assez les ravages de Candy Crush. Bon, moi c'est Arkero 2, j'y joue tout le temps en ce moment. Mais ces jeux mobiles, hein, c'est désastreux, hein. Déplorant que l'ancien PDG se défausse ainsi de ses responsabilités sur ses collaborateurs, au premier rang desquels Christian Hérault, la présidente a fustigé une forme de lâcheté. Cette ligne de défense rend le tribunal particulièrement perplexe et laisse certaines questions en suspens, a-t-elle ironisé, notamment celle de savoir si Bruno Lafont ouvrait, putain la juge, ouvrait seulement les enveloppes contenant ses comptes rendus ou bien s'il les jetait directement dans sa corbeille à papier sans même les ouvrir. Le mec, je pense qu'il avait un salaire ok, quoi. Il recevait des lettres, c'était marqué confidentiel dessus, il les balançait à la poubelle, quoi. Waouh. En définitive, qu'il s'agisse de la lecture de ses courriels ou des procès-verbaux du comité de sûreté, il apparaît clairement que Bruno Lafont cherchait à échapper à sa responsabilité en arguant d'une forme de désintérêt ou d'inadaptabilité aux enjeux de gestion du groupe Lafarge et finalement une forme de compétence. Madame le juge, je ne suis pas responsable. J'étais vraiment un PDG nul. Je ne lisais pas mes mails, je n'ouvrais pas les courriers, encore moins où c'était marqué confidentiel dessus. C'était marqué confidentiel, madame la juge. Moi, je pensais que c'était confidentiel aussi pour moi, hein. Moi, je pensais qu'on me les donnait, ces courriers, pour que je les balance à la poubelle, hein. Je pensais que ça faisait partie de mes missions, quoi. Et je dormais beaucoup, hein. Je dormais beaucoup.
Waouh.
Argument particulièrement fallacieux, a grincé la magistrate, puisque le PDG se targue par ailleurs d'avoir réduit drastiquement la dette du groupe et que le montant significatif des bonus qu'il a perçus démontre ses qualités indiscutables. Eh oui, mais si tu jouais tant à Candy Crush et que tu faisais la sieste, comment ça se fait que tu as réussi à réduire drastiquement la dette du groupe, tout ça quand même? Ouh, une défense en béton, joli. Si les traces remontant jusqu'à l'ex-PDG sont si rares, c'est en raison de sa volonté d'assurer une forme de protection face aux potentiels risques pénaux, a considéré la présidente, avant de porter le coup de grâce à la fameuse réunion du comité exécutif du 27 août 2014 qui ne faisait étrangement l'objet d'aucun compte-rendu. Ah, il y avait une réunion du COMEX, comme on dit, je crois, mais il n'y avait pas eu de compte-rendu. Et lors de cette réunion, dont on connaît le contenu par des prises de notes d'un participant, mais qui n'a pas donné lieu à un compte-rendu, Christian Hérault aurait fait part d'un accord avec l'État islamique. Et Bruno Lafont avait répondu, donc d'après les prises de notes d'un participant, « Ok, il faut s'assurer, enfin le « ok » c'est pour moi, hein, il faut s'assurer que ce que nous faisons est risk-free, dénué de risque, aussi vis-à-vis des US, des États-Unis. » Waouh. Waouh. À la différence de son N plus 1, Christian Ayrault, donc Christian Ayrault, c'était le, on va rappeler, le directeur adjoint opérationnel chargé de la Syrie, Christian Ayrault, apparaît, lui, à toutes les étapes de ce pacte passé avec le diable. Supérieur hiérarchique à Paris des deux patrons successifs de cette usine syrienne de Jalabiya, cet ingénieur des mines était informé des paiements aux factions armées. Donc là, il y a des documents, il y a des mails. Tout comme de la nature terroriste, il y a même eu une action directe en validant un accord avec l'État islamique en août 2014, a jugé le tribunal. La ligne de défense de Christian Ayrault était sensiblement différente de celle de son patron, donc lui, il n'a pas dit qu'il n'allait pas au bureau et qu'il n'ouvrait pas ses mails. Elle n'en a pas moins, elle aussi, eu le don d'irriter la présidente. L'un de ses arguments consistait à affirmer que Lafarge avait été victime de rackets de la part de ces groupes terroristes. La magistrate lui a rappelé qu'il aurait pu à tout moment mettre un terme à l'activité de l'usine, hein, et préférer fermer l'usine plutôt que de donner des millions d'euros à des terroristes qui, après, allaient tuer des gens, quoi. Et que la situation n'a jamais échappé à Lafarge au point de se trouver en situation de contrainte au sens de la jurisprudence. La juge dit, vous n'étiez pas obligé, en fait, de poursuivre l'activité, quoi. Rien ne vous y obligeait. Autre argument balayé par la présidente, M. Ayrault aurait tout ignoré de la nature terroriste des groupes dont il validait le financement. À deux doigts de nous dire qu'il pensait que c'était pour la SPA locale, quoi. Hein? Tiens, et si on donnait des millions d'euros à la petite, petite assos, là? Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Je crois du théâtre. C'est fou, ce mécénat cool des entreprises comme ça pour la culture. Attends, j'attends la suite, c'est une dinguerie quand même. La magistrate a souligné qu'au-delà des nombreux articles évoquant les exactions commises par ces entités en Irak ou en Syrie, ou encore l'attentat perpétré par l'État islamique au musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014, il était personnellement destinataire d'informations en interne, comme celle du comité de sûreté l'avisant par exemple dès le 18 décembre 2012 que le groupe Al-Qaïda, pardon, que le groupe Al-Nosra, filiale syrienne d'Al-Qaïda, lui aussi rétribué par Lafarge, était inscrit sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis. Donc c'est pire, en fait. Il connaissait le nom des groupes, mais il ne savait pas que derrière ces groupes, il y avait des terroristes. Ouais, c'est encore pire que ce que j'imaginais, quoi. À l'issue du délibéré, les deux cadres déchus de cet ancien fleuron de l'industrie française ont été escortés par des policiers pour passer leur première nuit en prison. Leurs avocates, Jacqueline Lafont et Solange Domic, ont aussitôt annoncé qu'elle allait faire appel. Donc il y a appel. Il y a appel. À la différence de leur supérieur hiérarchique, les deux directeurs successifs de l'usine syrienne de Lafarge, Bruno Pécheux et Frédéric Jolibois, ont échappé au mandat de dépôt, donc ils ne sont pas allés en prison directement. Ils ont été condamnés respectivement à 5 ans de prison ferme et 3 ans, dont 2 avec sursis et 1 an aménageable, ainsi qu'à de lourdes amendes. Firas Tlas, l'intermédiaire syrien grassement et illégalement rémunéré, cheville ouvrière de ce mécanisme de financement du terrorisme, a reçu la peine la plus lourde, 7 ans de prison. Absent à son procès, il est visé par un mandat d'arrêt. Deux gestionnaires sûreté de l'usine, absents au jugement, un Norvégien Jacob Vernes et le Jordanien Ahmad Jaloudi, ont été condamnés à 18 mois à 2 ans de prison ainsi qu'une amende de 20 000 euros. Quant au consultant et intermédiaire syro-canadien Amro Taleb, menteur patenté, escroc assumé, a dit la juge, lui aussi absent, ça en fait des gens absents. Et visé par un mandat d'arrêt, il a été condamné à 3 ans de prison. Mais parfois, dans une société, on s'interroge sur l'utilisation de l'argent public. Et on a raison de s'interroger sur l'utilisation de l'argent public. L'argent public, il doit toujours être questionné. À quoi il sert? Comment il est utilisé? Est-ce qu'il n'est pas gaspillé? Voilà. Donc, ce procès, il a un coût d'enquête. Hein, voilà. Et cette justice, elle a un coût. Mais se dire que l'argent public, il a servi notamment, quelque part, à financer cette enquête de la justice française et d'arriver à ces condamnations, là, on se dit que l'argent public a été bien utilisé. Puisqu'on parle beaucoup de ça en ce moment. La société Lafarge SA, devenue en 2015 une filiale du groupe Lafarge-Holcim après son absorption par le cimentier suisse, a elle aussi été condamnée en tant que personne morale. Donc l'entreprise a été condamnée à l'amende maximale prévue pour financement du terrorisme, 1,125 million d'euros, à une amende douanière de 4,5 millions d'euros à payer solidairement avec les autres prévenus, ainsi qu'au règlement intégral des frais de justice. Encore heureux, quand même. Voilà. Alors, Emma Oti me dit, le coût du procès n'est pas à payer par le coupable. Alors ça, c'est très intéressant, parce que récemment, j'en parlais avec un avocat avec qui je parlais d'une autre affaire. Et je posais la question, mais alors quand on gagne un procès, est-ce que du coup tous ces frais sont remboursés? Et moi je pensais ça. Je pensais que quand tu... Oui, on se prenait un café pour parler de la pluie et du beau temps. Et j'ai appris un truc que je ne savais pas. Il m'a dit, alors, on croit souvent que quand on gagne un procès, tous les frais qu'on a engagés dans le procès, notamment d'avocats, sont remboursés par la partie adverse. Ben non, en fait. Donc il y a des remboursements. Ah ben Étienne, toi tu le sais, moi je ne savais pas. Il y a des remboursements d'une partie des trucs, mais en fait, non, en fait, ça coûte des sous, même quand tu gagnes. Ouais. Mais parfois, il faut y aller quand même. Ouais. Si la magistrate a là encore fustigé le cynisme d'une société, tu vois, Étienne me dit, j'ai gagné un procès, mais j'ai jamais tout récupéré. Voilà. Ouais. D'où les procédures Bayon, bien sûr. Bien sûr, vous avez raison, ça illustre les procédures Bayon. Vous savez qu'il y a des entreprises, notamment richissimes, qui engagent des poursuites judiciaires contre des gens, qui obligent du coup les gens à aller en justice, à se défendre. Et en fait, ça va coûter de l'argent même quand la partie adverse gagne. Haha. Eh oui. Voilà, comme le dit Iris, un procès coûte cher, même si tu gagnes, tu n'as pas beaucoup d'argent. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux juste pas te permettre de te battre. Voilà. Donc moi j'ai appris ça récemment. Si la magistrate a encore fustigé le cynisme d'une société prête à toutes les compromissions, l'affaire j'ai finalement le prévenu qui s'en est le mieux sorti de se délibérer. Le tribunal n'a pas prononcé la confiscation partielle de son patrimoine à hauteur de 30 millions d'euros demandés par le ministère public. Voilà. Vous voyez, hier, on avait plusieurs articles sur ce procès des anciens dirigeants du groupe Lafarge. Et ils étaient OK, les articles. Mais je trouvais qu'il n'y en avait pas un qui nous décrivait vraiment bien tout ce qui s'était passé. J'ai préféré attendre un petit peu. Et dans Le Monde, j'ai trouvé que cet article était pas mal, quoi. Voilà. Je vous lis. N'oubliez pas l'aide juridictionnelle quand même. Oui, le Louvre, mais... Moi encore, c'est ce qu'on m'a expliqué récemment, moi je savais pas ça. Hein. Mais en fait, même quand tu gagnes un procès, tu n'es pas remboursé de l'intégralité de les frais que tu as dépensés. Quoi. Bon. Si un jour je vais en justice pour un truc, je pourrais vous raconter ça dans le détail, mais je n'en sais pas plus pour l'instant, c'est ce qu'on m'a expliqué récemment. L'enquête sort d'où ? Là, c'est pas une enquête de médiatique, hein, c'est l'enquête de la justice française, Ours Bateau, contre Lafarge. Je vous lis. Voilà, comme dit Cibou, le remboursement décidé par la justice, par le juge, la juge à l'issue du procès, c'est ce qui est estimé être le minimum nécessaire, mais en pratique, tu dois souvent payer plus pour augmenter tes chances de victoire. Voilà. Ma compagne me dit que Gorgo travaille dans le milieu de la construction en international et sa société, l'une des plus grandes du monde, ne travaillait plus avec Lafarge déjà depuis 20 ans pour des raisons éthiques, pour dire. C'est ce que Hugo Clément expliquait la dernière fois lors de son audition. Merci beaucoup. Donc sur les frais de justice, les procédures Bayon dont nous parlions. En gros, c'est du pay to win. Ah, t'es pas assuré de gagner, non. Mais oui, plus, disons, plus tu as des sous, plus tu as les moyens de te payer des conseils aguerris, voire même plusieurs avocats. Y a tout un travail d'enquête, de recherche, de réflexion qui prend du temps à ces personnes qui vont te facturer, bien sûr. Enfin, là, on enfonce une porte ouverte, hein, de dire qu'une procédure en justice, ça coûte cher. Et après, effectivement, il peut y avoir appel, tout ça, et donc ça peut aller encore plus haut en casse, en cassation. Voilà, et ces frais augmentent, quoi. Et ça peut durer des années. Et il faut avoir un petit peu les reins solides financièrement. Je vous lis. Il y a Basse qui dit, après, il y a une réalité, mais pour moins de 2 ou 3 mois de salaire, par exemple, ça vaut pas le coup d'aller au prud'homme. Mais pour plus, oui, prenez un avocat. Alors oui, les prud'hommes. Oui, c'est vrai qu'en dessous d'une certaine somme, ça ne vaut pas le coup. Mais même au-dessus, hein, les prud'hommes, ça veut dire parfois des mois, plus souvent des années. Moi, j'avais une amie qui m'avait raconté, une amie proche qui travaillait dans le milieu du sport, qui m'avait raconté comment elle était allée au prud'homme contre une entreprise. Elle avait gagné, mais ça avait pris 3 ans. 3 ans de charge mentale, hein. D'aller chercher aussi des témoignages, de demander à des proches, des gens avec qui elle est bossée, de faire des témoignages contre l'entreprise. C'est pas de tout repos. Ça dure 3 ans. Ça coûte de l'argent. Voilà. Et moi, cette amie m'avait dit, ce serait à refaire, je le referais pas, quoi. Je le referais pas. Voilà. Donc moi, quand j'ai eu des soucis avec une boîte une fois, c'est cette expérience qui a fait que j'ai décidé de pas aller au prud'homme. Et de faire une transaction, quoi. Voilà. Parce que je voulais pas, je voulais mettre mon énergie sur autre chose, quoi. Plutôt vers ma famille et le stream que de passer 3 ans à faire une guerre juridique contre l'entreprise, quoi. Et Valorant, sans compter Valorant. Et sans garantie de résultat. Et c'est bien ça qui est stressant. Oui, autant faire un troisième enfant. Voilà, j'ai préféré faire un troisième enfant, personnellement. Voilà. Bon, après, si j'avais su que la transaction allait mettre 2 ans à être trouvée, je serais allé au prud'homme. Parce que, au moment où j'ai choisi plutôt l'approche transactionnelle plutôt que les prud'hommes, je ne savais pas que cette discussion sympathique et chaleureuse allait durer 2 ans. Si j'avais su, du coup, je serais allé au prud'homme plus vite. Ça aurait duré pareil et j'aurais gagné plus de sous. Et on m'aurait moins emmerdé après. Mais bon, ceci est une autre histoire. On peut pas, si on savait le futur, on prendrait sans doute des décisions différentes. Une bonne nouvelle pour nous monter le moral, bien sûr. On va parler du RN qui perd un allié. En Hongrie. C'est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait beaucoup de RN aujourd'hui, hein, du coup. Hein. Parce que du coup, on a été amené à en parler tout à l'heure sur l'article sur les sondages. Bon, c'était pas prévu. On va aller vite, parce que la Hongrie, on en a longuement parlé, c'est très intéressant d'ailleurs. La Hongrie, c'est ici. C'est un article du HuffPost, de Mediapart, pardon. Alors, bon, La défaite d'Orban en Hongrie, ses conséquences pour l'Europe, ses conséquences pour les Hongrois et les Hongroises, on en a parlé longuement ici. Là, c'est un article de Mediapart qui s'intéresse aux conséquences politiques pour la France, puisque Mediapart sait très bien que Marine Le Pen, notamment, et le RN étaient très admiratifs de M. Orban. Avec la défaite d'Orban, écrit donc Mediapart, le RN perd un modèle et un allié, principal partenaire européen du parti de Bardella, le Premier ministre hongrois a été battu, donc M. Orban, après 16 ans de mandat de pouvoir au terme d'une campagne marquée par les ingérences des États-Unis, puisqu'on rappelle que le président Trump avait envoyé son vice-président, quand même, juste avant l'élection, en Hongrie. Avertissement pour le RN, estime Mediapart, qui en ce moment veille à revendiquer son indépendance vis-à-vis de Trump, puisque le RN, et notamment Marine Le Pen, a dit de nombreuses reprises son admiration pour Trump. Vu le tour que prend la présidence de Donald Trump, c'est vrai que ces derniers temps, les responsables du RN prennent leur distance avec le président américain. Donc là, de la distance entre Marine Le Pen et Viktor Orban, sur cette photo, il n'y en a pas énormément. Hein. C'est une photo du 9 juin 2025, ce n'est pas une photo d'il y a 10 ans. Hein. Parce que 16 ans de pouvoir, on pourrait dire « Ah, mais c'est une vieille photo ». Donc cette photo, elle est quand même très récente. Marine Le Pen, Viktor Orban lors du meeting du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen à Mormant-sur-Vénissant dans le Loiret le 9 juin 2025. Donc c'est une photo qui est quand même pas très 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 ancienne. Lisons. Le 9 juin 2025, sur une scène installée dans le champ d'une petite commune du Loiret, Viktor Orban s'est avancé sous le soleil acclamé par des milliers de militants et militantes françaises invitées d'honneur du grand raout européen organisé ce jour-là par le RN pour célébrer l'anniversaire et le succès des Européennes de 2024. Le nouvel allié du parti de Bardella a été célébré comme le fer de lance d'une vague extrémiste sur tout le continent. Merci, merci Mokajer. Non, Mokakej, pardon. Merci Akiel. Merci Koukoudev. Excusez-moi, je suis sur un truc. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me régaler d'un historique. Un petit shiny, voilà. Mais c'est bien aussi d'avoir des shiny, je le garde avec nous. Alors, Marine Le Pen avait répété donc à l'occasion, en juin dernier, hein, son soutien le plus ardent à la valeureuse Hongrie, un modèle de résistance historique aux oppressions, disait-elle, nous sommes fiers de marcher à ses côtés dans ce combat. Ah, bah comment t'as deviné que c'était pour toi? Oh, il m'a mis un petit cœur. X Diabogo, oui c'était toi mon petit shiny. J'ai vu ton historique avec tes messages de soutien à Poutine, tes vives le RN, etc. Mais ce qui m'a le plus trigger, et t'es vraiment passé à ça du Bandef, c'est tes commentaires sur mon entraînement avec Tommy pour Nair Zilan, voilà, et tes messages pas sympas. Voilà. C'était surtout ça. Mais je te garde, tu vois. Voilà, mais c'est tout ça que j'ai trouvé vraiment pas gentil. Espèce de méchant, voilà. Mais on te garde. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec tes idées politiques qu'on peut pas échanger quand même. Voilà, avec un peu de chance, même on va te faire changer d'avis un jour. Donc, Marine Le Pen avait répété son soutien le plus ardent à la valeureuse Hongrie. Un modèle de résistance historique aux oppressions, disait-elle, nous sommes fiers de marcher à ses côtés dans ce combat essentiel, pour ne pas dire existentiel. C'est ce qu'on appelle des alliés, hein, avait ajouté la patronne des députés RN. Quelques minutes plus tôt, celui qui était encore le tout-puissant Premier ministre hongrois avait sorti la brosse à reluire pour saluer une amie de longue date, une personne formidable, une combattante courageuse, une vraie camarade, avant de discourir sur la défense de la nation, de la famille, du christianisme, mise en danger par un échange organisé de populations pour remplacer le socle culturel de l'Europe. Mais ça, c'est le grand remplacement, ça. Qui dit ça? Ah oui, c'est lui. C'est ce qu'on appelle le grand remplacement. Voilà. Avant de discourir sur la défense de la nation, de la famille, du christianisme, mis en danger par un échange organisé de populations pour remplacer le socle culturel de l'Europe, c'est le grand remplacement. C'est ce que l'extrême droite appelle le grand remplacement. Donc ce sont des mots tenus par Orban devant les militants et militantes du RN en juin dernier. En coulisses ce jour-là, on se rengorgeait de l'alliance scellée avec le leader de la Fidesz, c'est son parti, ancien membre du groupe de droite PPE au sein des Patriotes pour l'Europe, devenu le troisième groupe en taille au Parlement européen. 9 mois plus tard, la défaite cinglante subie par Viktor Orban lors des élections législatives hongroises vient évidemment rebattre les cartes. Où on en est aujourd'hui ? Que dit Marine Le Pen de cette défaite électorale ? Sur X, Marine Le Pen a choisi de saluer le respect de la démocratie par son ami et modèle hongrois qui a bien voulu laisser des élections se tenir dans son pays. Pardon. Donc là, on se félicite. On se félicite que le gars ait accepté que des élections démocratiques aient pu se tenir. Je n'invente rien. Malgré les accusations grotesques de dictature dont le gouvernement de Viktor Orban a été accusé depuis des années, la Hongrie démocratique a choisi l'alternance. Grand prince ! Vous voyez que le gars n'est pas un mauvais bougre. Il a accepté que des élections démocratiques se tiennent dans son pays. Et même quand il a perdu, eh ben il a accepté de quitter le pouvoir. Magnifique ! A-t-elle écrit, applaudissant le fait que le Premier ministre avait acté sa défaite avec beaucoup d'élégance en plus. Donc c'est-à-dire, le monde où un gars accepte que des élections démocratiques se tiennent, et le monde où il accepte quand il a perdu de quitter le pouvoir, c'est quasiment une exception, quoi. C'est-à-dire, il y a un effet waouh. Ok, c'est un rapport à la démocratie qui est assez intéressant. Jolande Bardella, qui s'était... rendu au grand raout des conservateurs de Budapest en 2022 pour participer au concert des patriotes européens et américains, a lui aussi désormais salué son ancien allié. Là, il a usé des mêmes éléments de langage avant de rendre hommage à un grand patriote qui aura achevé durant son mandat le rattrapage économique de la Hongrie, promu des politiques familiales qui ont permis de protéger la natalité et défendu les frontières de son pays de l'Europe face aux flux migratoires. Son groupe européen s'est également exprimé par communiqué pour dénoncer les ingérences de la Commission européenne dans le processus politique national. Sans un mot de l'initiative, de l'offensive pro-Orban de l'appareil étatique américain, sans rappeler que le vice-président Jed Evans a participé à un meeting aux côtés du Premier ministre hongrois lors de la dernière semaine de campagne. Lundi 13 avril sur France Inter, un autre élu, le député Jean-Philippe Tanguy, RN, a pour sa part choisi de relativiser la défaite du principal allié de son parti, victime selon lui de l'usure du pouvoir, de la volonté de l'alternance d'un peuple souverain. Combien de fois on a dit que Viktor Orban n'accepterait pas la défaite et se maintiendrait au pouvoir ? Je ne sais pas qui a dit ça, moi personnellement je ne l'ai pas dit. Il a reconnu sa défaite dans la soirée, il est parti immédiatement, donc ça c'est un peu jugé incroyable, pour mieux faire le parallèle et les inquiétudes concernant l'attitude qu'aurait le RN s'il accédait au pouvoir. Avec cette chute de l'autocrate eurosceptique, le RN perd un de ses alliés les plus proches en Europe et à Bruxelles. Au fil des années, Marine Le Pen avait construit avec Viktor Orban une relation de soutien mutuel que les attaques répétées du leader hongrois contre l'état de droit et les personnes LGBTQIA+, mais aussi sa défense d'une race hongroise non mixte, n'ont pas entamé. Alors, je ne savais pas, Monsieur Orban, manifestement, était le chantre d'une race hongroise non mixte. En octobre 2021, à l'approche de la présidentielle de 2022, la chef de file du RN était reçue en grande pompe à Budapest. Donc grande pompe, c'est au-delà de 43-44 hein, en taille. Par le Premier ministre, Marine Le Pen avait affiché ses points communs en fustigeant la supposée submersion migratoire et la volonté d'asservissement de l'Union européenne. Quelques mois après son retour à Paris, RTL révélait l'obtention d'un prêt d'un peu plus de 10 millions d'euros, décroché début 2022 par la candidate, donc Marine Le Pen, auprès d'une banque hongroise détenue par un proche de Viktor Orban pour financer sa campagne présidentielle. Ça, c'était pour la présidentielle de 2022. Depuis les élections de juin 2024, le parti frontiste et la Fidesz ont encore renforcé leur partenariat co-gérant le groupe des Patriotes pour l'Europe au Parlement européen. Et ces dernières semaines, Marine Le Pen avait donné de sa personne pour encourager son allié hongrois lors de ces élections. Le 23 mars, elle s'était envolée pour Budapest afin d'apporter son... Ah, ok. Elle était allée sur place. D'apporter son soutien à son ami qu'elle a décrit comme un visionnaire, et surtout un pionnier. Je lis la fin pour voir tout ce que je voulais. Je vais vous lire la suite, c'est intéressant. Vous êtes plusieurs à me dire tout à l'heure que attention Samuel, Peter Maguire, le successeur, celui qui va être Premier ministre, là, issu du Fidesz d'ailleurs, hein, ancien du parti du Premier ministre déchu, c'est toujours la droite. Hein, voilà. C'est toujours la droite. Alors, il n'est pas anti-Union européenne comme Orban, hein, mais on est toujours sur un parti de droite, effectivement. Après, c'est la pratique du pouvoir qui va pouvoir... conservateur, ouais. C'est la pratique du pouvoir qui va nous montrer s'il est aussi menaçant pour les libertés individuelles, pour les libertés des minorités, pour l'Union européenne. C'est cette pratique du pouvoir. D'ailleurs, dans les heures qui ont suivi la chute de leur allié, certains hauts gradés du RN ont préféré relativiser cet échec en rappelant que le nouveau Premier ministre était tout aussi radical que Viktor Orban sur les questions d'immigration. Peter Maguire, 45 ans, est en effet lui-même issu de la Fidesz, qu'il n'a quitté en 2024 pour critiquer la corruption dans l'entourage du dirigeant hongrois. Le député RN Tanguy a ainsi moqué les réactions enthousiastes d'Emmanuel Macron ou de la présidente de la Commission européenne, qui dit « ils n'ont pas lu le programme de M. Maguire, qui à 90% est le programme de M. Orban ». Ok. Pour ce qui est intéressant, c'est peut-être des 10% qui changent d'ailleurs. Reste un constat que l'appareil du RN ne peut pas ignorer selon Mediapart. Le Premier ministre déchu, soutenu aussi bien par Poutine que par Trump, ce qui est intéressant en soi, a vu sa campagne parasitée par la question des ingérences étrangères. Le diagnostic vaut leçon pour le RN à 12 mois de la présidentielle. Le parti d'extrême droite qui n'a pas réussi à faire oublier ses deux emprunts contractés en 2014 auprès d'une banque russe proche du Kremlin, remboursés en 2023, s'emploie désormais à se tenir à distance d'un autre allié encombrant, Donald Trump. Alors qu'elle était à Budapest le 23 mars pour soutenir Orban, Marine Le Pen a ainsi veillé à ne pas s'afficher deux jours plus tôt à la déclinaison hongroise de la conférence d'action politique conservatrice, le grand raout du mouvement conservateur américain piloté par la mouvance MAGA. Une position de principe qui n'empêche pas le RN de bénéficier de ses mêmes soutiens. Au lendemain de la condamnation en première instance de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européennes en mars 2025, Poutine, Orban et Trump avaient été parmi les premiers à dénoncer une justice politique et à apporter leur soutien à leur candidate favorite pour 2027. Aujourd'hui, aux États-Unis et aussi en France, le regard sur Trump a beaucoup changé, beaucoup évolué ces dernières semaines, ces derniers mois. Marine Le Pen en prend conscience. Elle se rend compte que dans la perspective de 2027, avoir pris ses distances avec la Russie et Poutine n'est pas suffisant. Il va falloir aussi prendre ses distances avec Trump. C'est tout simplement ce que nous dit cet article. Allez, je vous lis. Et on enchaîne. Maguire est aussi anti-immigration, me dit Darren Eckerschiff. Il est moins pro-Poutine. Tu as raison. Mademoiselle Bébé me dit, il a dit qu'il serait protecteur envers les minorités. Tu as raison aussi. Voilà, à suivre. C'est la pratique du pouvoir qu'il faudra surveiller. Lisons les commentaires. Je connais un Hongrois qui était secoué par la chute d'Orban, me dit Noxera, car pour lui, ça signifiait que la Hongrie allait partir en guerre contre la Russie. Elle a connu cette propagande, on en a parlé. Dans l'argumentaire d'Orban, il y avait cette idée, effectivement. que s'il était chassé du pouvoir, les risques de conflit avec la Russie étaient très importants. Ouais. Les 10%, me dit Lilke, c'est l'Europe et le respect des institutions et contre-pouvoir, je crois. Sinon, le reste, c'est la même chose. On est bien d'accord. Mais c'est déjà énorme. Mais c'est déjà énorme. On suivra d'ailleurs ce qui va se passer en Hongrie. En espérant que la presse française suive ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois dans ce pays. Bien sûr. On enchaîne avec Patrick Bruel, et ça, on va peut-être en faire un shout-out, comme en bon français, un coup de projecteur pour nos amis de YouTube. Ouais. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch, c'est la grande revue de presse qu'on fait tous les matins depuis 5 ans. On est le mercredi 15 avril, et dans toute l'actualité que vous pouvez voir dans le sommaire, là, il y a une actu qu'on voulait mettre en avant pour vous, c'est la suite de l'affaire Patrick Bruel. Voilà. Je vous montre ça. Le média Mediapart a fait des révélations il y a quelques semaines à la suite d'une enquête du média qui a duré plusieurs années sur Patrick Bruel, sur le fait que de nombreuses femmes ont porté plainte contre le chanteur pour viol ou agression sexuelle. C'est la suite de cette affaire. Mediapart toujours révèle que après l'enquête journalistique, eh bien, il y a une enquête judiciaire. Affaire Bruel, la justice française ouvre une enquête. Quand il y a plainte, par exemple, la justice peut décider de ne pas ouvrir une enquête, de dire, attendez, c'est pas un non-lieu, c'est de classer sans suite. Voilà. Bon, bah là, il y a une enquête. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après la plainte pour tentative de viol et agression sexuelle de Daniela Elsner, je vais vous dire qui est cette femme dans un instant, contre Patrick Bruel. Cette femme avait témoigné dans Mediapart le 18 mars. Aux côtés de 7 autres femmes, le chanteur conteste toute violence, contrainte ou menace. Et vous êtes plusieurs à me dire dans le chat que la justice belge a également ouvert une enquête. Merci pour cette info qu'on ira vérifier tout à l'heure, bien sûr. Lisons l'article signé de Marine Turchi dans Mediapart, qui est un média qui se caractérise notamment par ses enquêtes, vous le savez, qui met énormément de moyens sur les enquêtes, ce qui peut prendre des semaines, des mois, parfois des années, ce qui a un coût. Alors que les témoignages de femmes accusant Patrick Bruel de violences sexuelles se multiplient en France et en Belgique, la justice française se saisit de l'affaire. Selon nos informations, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après la plainte pour tentative de viol et agression sexuelle de Daniela Elsner contre le chanteur. Cette femme de 54 ans aujourd'hui, directrice d'Unifrance, alors Unifrance c'est un établissement qui est très connu, qui œuvre à la promotion du cinéma français dans le monde, avait déposé plainte le 12 mars 2026, c'est tout récent, auprès du parquet de Paris pour dénoncer les faits qui avaient lieu en 1997, comme Mediapart l'avait révélé. Le 18 mars, elle nous avait livré son témoignage et raconté ce qu'il avait décidé à prendre la parole. 30 ans après les faits, Mediapart avait recueilli plusieurs témoignages détaillant le sien. Donc si vous cliquez sur le lien, par exemple, là, eh bien vous aurez accès à cet article qui parlait de son histoire et de son témoignage. En confirmation de ce qui a été publié dans la presse, une plainte a été adressée au parquet de Paris le 12 mars, reprochant à Patrick Bruel une agression sexuelle susceptible d'avoir été commise il y a plusieurs dizaines d'années. Les investigations ont été confiées au premier district de la PJ, a confirmé mardi 14 avril le parquet de Paris à Mediapart, donc le parquet qui confirme qu'une enquête judiciaire a donc été ouverte. C'est ça la nouveauté. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'ouverture rapide de cette enquête préliminaire suite à la plainte de Daniela Elsner, réagit auprès de Mediapart son avocate. Nous collaborons évidemment pleinement avec le parquet pour apporter tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Solliciter l'avocat de Patrick Bruel, et donc Christophe Ingrin et sa communicante, Clara Paul Zamour, ne nous ont pour l'instant pas répondu. Le chanteur qui conteste dans cette affaire, puisqu'il a Mediapart lui a demandé son sentiment là-dessus, répète qu'il conteste dans cette affaire toute violence, toute contrainte, et bénéficie, rappelle Mediapart, de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence qui, rappelons-le, ne s'applique qu'au moment où une procédure judiciaire débute. Rappelons que la présomption d'innocence, c'est un concept juridique qui ne concerne une personne que quand elle est engagée dans une procédure judiciaire. Ne dites pas à propos de quelqu'un qui n'est pas poursuivi par la justice « Ah oui, mais il y a présomption d'innocence ». La présomption d'innocence, c'est en matière de droit. L'effet que Daniela Elsner dénonce aurait eu lieu en novembre 1997, en marge du festival du film français à Acapulco au Mexique, alors qu'à l'époque, elle n'était pas directrice d'Unifrance, c'était il y a très longtemps, mais elle était assistante. Voilà, et elle travaillait déjà dans cette entreprise. Tandis que le célèbre acteur et chanteur était invité pour un film dans lequel il tenait l'affiche. Dans la plainte que Daniela Elsner a adressée au parquet de Paris, la directrice générale d'Unifrance aujourd'hui affirme avoir été soudainement agressée sexuellement par Patrick Bruel lors de ce festival, alors qu'elle travaillait. Mais tu es qui ? Personne ne te croira. Tu n'es rien. Lui aurait lancé le chanteur, qu'elle ne connaissait pas personnellement, alors qu'elle pleurait et tentait de se débattre dans sa voiture. Elle dit ensuite avoir subi une tentative de viol dans le bungalow du musicien et indique n'avoir pu s'enfuir que parce qu'elle se serait mise à hurler et qu'elle l'aurait repoussé avec force dans un instinct, dit-elle, de survie. Quelques minutes plus tard, elle avait été recueillie par une collègue de l'entreprise où elle travaillait, Unifrance, Isabelle, qui l'avait confirmé, le fait qu'elle l'avait recueillie à Mediapart. Questionné par Mediapart, Patrick Bruel a répondu, dans l'article précédent, avait contesté les gestes et les propos décrits. Ok. Et réfuter la possibilité même de toute violence, contrainte ou menace exercée à l'égard d'une femme. S'il a pu chercher à séduire, à proposer parfois de manière directe une relation intime, il ne s'est jamais jeté sur qui que ce soit, ni dans une voiture, ni sur un parking, ni ailleurs, avait indiqué son avocat Christophe Ingrin. D'après les témoignages recueillis par Mediapart, Daniel Toscan-Duplantier, président d'Unifrance à l'époque des faits, avait demandé à Patrick Bruel de s'excuser lors d'un cocktail en janvier 1998. Le chanteur avait reconnu auprès de Mediapart s'être excusé, mais avait affirmé que Toscan-Duplantier n'aurait nullement évoqué de la brutalité, de la violence ou une agression, mais un comportement jugé insistant qu'elle aurait mal vécu. Fin 2019, Patrick Bruel se serait à nouveau dit prêt à s'excuser d'après son agente, alertée par Daniela Elsner d'un comportement problématique à Acapulco. Daniela Elsner, donc la femme dont nous parlons, n'est pas la seule à mettre en cause le comportement de Patrick Bruel. En 2019, 5 femmes travaillant comme masseuses dans des spas de luxe avaient accusé le chanteur de violences sexuelles. Auditionnée dans le cadre d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et exhibition sexuelle, l'artiste avait nié en bloc. En décembre 2020, la procédure avait été classée sans suite. Donc là, pas d'enquête judiciaire. Procédure classée. Enfin, pas de procès, pardon. Procédure classée. Il y a eu procédure, mais classée. Le 18 mars, Mediapart avait révélé, outre le récit de Daniela Elsner, les témoignages de 7 femmes, dont une femme mineure, accusant Patrick Bruel de violences sexuelles entre 1992 et 2019. L'une d'elles avait porté plainte en septembre 2024 pour viol. L'enquête est encore en cours, au parquet de Saint-Malo. Ça, c'est une autre procédure. Dans le magazine Elle, lundi de cette semaine, 4 femmes, donc ça, c'est 4 nouvelles femmes, ont dénoncé à leur tour des violences sexuelles du chanteur. L'une avait porté plainte pour viol en 2021. Sa plainte avait été classée sans suite. En Belgique, 2 attachés de presse travaillant dans le milieu du cinéma ont mis en cause le comportement de Patrick Bruel et témoigné au micro de Mediapart. L'une d'elles a porté plainte pour agression sexuelle le 24 mars 2026, donc tout récemment. Et selon nos informations, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Bruxelles. C'est ce que vous disiez au début de cet échange dans le chat. Vous avez raison, il y a aussi une enquête qui a été ouverte en Belgique. De son côté, Patrick Bruel, qui est présumé innocent, puisqu'il y a procédure judiciaire, a contesté toutes les allégations de violence, de brutalité ou de contrainte et nous a affirmé n'avoir jamais outrepassé un refus, n'avoir forcé un geste ou un rapport sexuel. Voilà. Alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas spécialiste de droit, mais quelqu'un disait tout à l'heure, c'est parole contre parole. Le problème dans ce genre d'affaires, c'est que c'est parole contre parole. S'il n'y a pas de preuves matérielles, s'il n'y a pas de témoins, C'est très compliqué pour une victime d'agression sexuelle et de viol de prouver la matérialité des faits. Et donc, pèse sur ces deux procédures ce risque que les plaignantes et leurs conseils, leurs avocats, avocates, n'arrivent pas à prouver les faits, quoi. Ou que l'enquête du procureur n'arrive pas non plus à les prouver, quoi. Ouais. Je vous lis. Je vous lis. Même dans le procès Pellicot, nous rappelle à Cannes, où il y avait des vidéos, on a invoqué le parole contre parole dans le procès. Bon, en tout cas, Mediapart suit cette affaire. Donc on aura l'occasion peut-être de revenir sur ces procédures et de voir ce que deviennent ces deux enquêtes des justices belges et françaises qui viennent de s'ouvrir. Est-ce que le nombre de témoignages peut jouer dans le jugement ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, la procédure ouverte en France ne concerne qu'une femme, hein, la directrice d'Unifrance. Donc, est-ce que dans le cadre de... Parce que là, on parle de témoignages auprès de journalistes. Est-ce que la procédure pour la directrice d'Unifrance va entendre la parole des autres femmes qui ont également accusé Patrick Bruel d'agression sexuelle ou de viol ? Ça, je ne le sais pas. Est-ce que l'affaire va uniquement focus sur le cas de Madame Daniela Elsner. Voilà. Alors, mais ce qu'on voit, c'est que du coup, cette affaire suscite d'autres témoignages, puisque là, par exemple, dans le magazine Elle, il y avait des témoignages de quatre femmes qui jusqu'ici ne s'étaient pas fait connaître. Evan nous dit attention aux fausses accusations comme certaines femmes de footballeurs ou de streamers. Ouais, donc ça fait beaucoup de femmes quand même, si je puis me permettre. Beaucoup de femmes quand même, là, qui, beaucoup de témoignages quand même. Alors, en principe, si les enquêteurs font leur taf, ils vont raccrocher les autres témoignages, me dit Laurine Desneiges. On suivra ce sujet, bien sûr. Voilà. En tout cas, Mediapart le suit. Merci de votre attention. Amis YouTube, nous, on vous laisse là, pour qu'on continue la revue de presse. On va finir avec l'émergence de salariés dopés à l'IA. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les matins sur Twitch, c'est en direct. Ou alors vous avez le replay de l'intégralité de la revue de presse sur YouTube tous les jours. Vous avez aussi la totalité de la revue de presse. Si vous avez 2-3 heures à consacrer avec nous là-dessus. Et le chat Twitch nous dit, et en plus on est tarpin pipou. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si je sais. Sujet suivant donc. Et après, ce sera la fin de la revue de presse. Et après, je vais retrouver ma petite sœur qui vient manger à la maison pour nous visiter. Et ça fait bien plaisir. Comme quoi, il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'émergence de salariés dopés, nom de Dieu, à l'IA ? C'est parti. Bim. C'est dans Le Monde. Dernière édition du Monde. Merci Niv Milena, merci, merci pour ton soutien. Aux États-Unis, ça concerne les États-Unis surtout maintenant, l'émergence de salariés dopés à l'IA, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mesurer la performance en token plutôt qu'en heure travaillée. Dans la Silicon Valley, l'intelligence artificielle redéfinit les critères de valeur des salariés avec en creux la menace d'un déclassement. Alors au début, je trouvais ça un peu bizarre, je ne comprenais pas tout, puis j'ai relu l'article deux fois et je me suis dit « Ok, d'accord, je vois ce que veut dire l'article, le journaliste qui s'appelle, on va citer, Arnaud Le Parmentier, qu'on appelle aussi au journal Le Monde le roi de la patate. Excusez-moi, Parmentier, patate, je suis confus, je m'excuse, je n'ai pas beaucoup dormi. Les soirées de San Francisco ne sont plus ce qu'elles étaient. Oh merde ! Déplore Nikunj Kothari, associé dans l'entreprise de capital risque FPV Venture, dans un post publié en février sur les réseaux sociaux, et qui décrit c'est vraiment ce truc monstrueux. Un ami a quitté une soirée à 21h30 un samedi. Mais il n'y a plus de jeunesse, je vous le dis moi. Pas fatigué, pas malade. Il voulait juste retrouver ses agents d'IA. Ces robots qui font tourner des modèles personnalisés. Plus personne ne s'en étonne, décrit l'investisseur. Désormais, toutes les soirées sont sobres. Putain, les mecs, à 21h30 fin de la soirée, ça n'a pas picolé. Les jeunes ne boivent pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Car ils doivent se remettre au travail juste après. Ça boit pas parce que c'est mauvais pour la santé. Ça boit pas parce qu'ils vont faire des dingueries. Ça boit pas parce qu'à 21h30, ça rentre chez soi pour taffer le samedi soir. Eh ben ah. Ce n'est pas l'influence de Brian Johnson, entrepreneur anti-alcool qui ambitionne de vivre éternellement, qui les guide, bien que cela joue sans doute un rôle. L'ivresse qu'il recherche aujourd'hui, c'est pas l'ivresse de la fête. Comme le dit Tchernosaurus, il y a des stages en Bretagne qui se perdent. Ça n'est pas l'ivresse de la fête, c'est l'ivresse qui se mesure en tokens par jour. Les tokens, les jetons, ce sont ces unités, ces particules d'intelligence artificielle générées à l'aide d'électricité et de serveurs géants. Ils sont... Pourquoi on dit token ? Ils sont la nouvelle mesure de la puissance IA, comme jadis les kilowattheures au moment de la génération de l'électricité. Sur Gemini, l'assistant IA de Google, pour obtenir la date de naissance de George Washington, par exemple, 40 tokens sont nécessaires, hein, tandis qu'il en faut 3000 pour avoir un portrait de qualité et 5300 pour une vidéo de 20 secondes. Voilà. Utilisés au travail, ces tokens démultiplient le cerveau du col blanc, comme lorsque le tracteur décupla la force de travail de l'agriculteur. Token, est-ce que c'est celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux ? C'est un autre. Dans une bascule ahurissante, la Silicon Valley invente le salarié augmenté. Ceux-ci sont désormais considérés comme doublés, leur part humaine et les agents d'IA qu'ils font tourner. Voilà. Sans token, sans outils pour servir de l'IA, hein, le salarié est déclassé, les intéressés en sont conscients. Mi-mars, lors de la conférence NVIDIA de San José de San Francisco, Jensen Huang, le patron fondateur de NVIDIA, inventeur des puces qui font tourner l'IA. Ça marche bien, NVIDIA, hein, ça marche bien. Expliquer qu'un nombre croissant d'entreprises prévoit d'attribuer à chaque emploi une quantité de requêtes informatiques. C'est désormais un des outils de recrutement dans la Silicon Valley. Combien de tokens accompagnent mon poste ? Car tout ingénieur ayant accès à des tokens sera donc plus productif. L'inverse est aussi vrai, gare à ceux qui n'embrassent pas l'IA. Pardon. Si vous rémunérez un ingénieur logiciel ou un chercheur en IA $500,000 par an, s'il ne consomme pas pour au moins $250,000 de tokens, je serai profondément inquiet, dit-il. S'il prétend n'en avoir utilisé que 5 000, je vais piquer une crise, dit encore Monsieur Huang. Toute l'activité humaine semble concernée, y compris les agents de la CIA qui vont être augmentés. Alors, augmentés. Alors, hein ? Tiens, regardez ce que dit Silta dans le chat. Ça va, Silta ? J'ai été félicité pas plus tard que cette semaine parce que j'étais le dev de mon équipe qui avait utilisé le plus de tokens le mois dernier. Ah ! On va droit dans le mur. Quand ça parle d'augmentation, ne pensez pas à l'augmentation de salaire. Bande de foufou. Non ! Augmentation en tokens. Plus de moyens pour bosser plus. Pas déconner non plus. Donc les agents de la CIA vont être augmentés aussi en tokens. Jeudi 9 avril à Washington, le vice-directeur de la CIA a expliqué qu'au cours des deux prochaines années, l'agence allait créer des collaborateurs IA intégrés à toutes les plateformes d'analyse de l'agence, une sorte de version classifiée de l'IA générative qui aidera les analystes de la CIA dans leurs tâches élémentaires. Elle ne pensera pas à la place de nos analystes, mais elle aidera à rédiger les jugements clés, en assurer la clarté, à comparer les propositions aux normes du métier. Sur le terrain, les entreprises l'appliquent à tout leur processus de création aujourd'hui, au forum HumanX à San Francisco, qui rassemble la tech. Le chef technologie chez le géant des produits d'hygiène et d'entretien Procter & Gamble a expliqué comment l'IA, donc Procter & Gamble, si je ne dis pas de bêtises, c'est les shampoings, le savon, tout ça, l'IA était devenue une partie intégrante de son entreprise. Elle a permis de lancer un produit de protection des cheveux contre le soleil 5 fois plus rapidement que d'habitude, de créer des molécules pour une lessive en poudre en 6 mois au lieu de 6 à 8 ans de développement, ou encore de faire tourner une usine Gillette sans personnel de nuit. Waouh ! Et Seth Cohen a constaté que les salariés pratiquant l'IA étaient bien plus productifs. Qu'on soit chef de produit marketing, chercheur, ouvrier, l'avenir chez Procter & Gamble passe par l'IA. Pour M. Cohen, les entreprises qui l'emporteront ne seront pas celles qui se demanderont ce que l'IA est capable de faire, mais celles qui exploiteront la puissance de l'IA pour stimuler leur croissance. À court terme, la question est de savoir, c'est une question qu'on se pose ici bien sûr, si les jobs qualifiés vont disparaître. Au forum HumanX, tous les intervenants s'étaient donné le mot pour réfuter ces perspectives de job apocalypse. Il y a des études qui sont très inquiétantes sur le sujet. La crainte pourtant se reflète dans l'interminable descente aux enfers à Wall Street des firmes, des anciennes firmes de logiciels, aujourd'hui concurrencées par l'IA, commencées par Microsoft, dont l'action a chuté d'un tiers depuis janvier, et qui a été accentuée par des licenciements massifs chez Block, la firme de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, vous savez, qui a licencié beaucoup ces derniers temps en disant « Bah les gars, avec l'IA, moi j'ai pas besoin d'autant de salariés. Hein. » Mais à HumanX, le PDG de Deep Learning AI estimait que les récentes vagues de licenciements annoncées faisaient l'objet d'un AI bashing. Voilà. Elles sont en réalité la conséquence, estime-t-il, d'embauches excessives réalisées durant la pandémie et n'ont que peu de rapport avec l'IA. Les entreprises ne licencient pas parce qu'avec l'IA, elles gagnent en productivité. Elles licencient parce qu'avant, on avait trop embauché. Tout en soulignant qu'il faudra encore des ingénieurs informatiques à l'avenir. Tout le monde devrait apprendre à coder, disent les patrons. Je sais que de nombreux dirigeants d'entreprise ont déconseillé d'apprendre à coder au motif que l'IA finirait par automatiser cette tâche. Avec le recul, nous considérons que ce conseil est l'un des pires jamais donnés en matière de carrière. Mais, demande le monde, qui pourra mieux piloter l'IA que l'IA ? C'est un peu ce qu'a laissé entendre Francis De Souza, patron de la sécurité de Google Cloud, lors de cette conférence HumanX, qui a insisté sur les risques de cyberattaques orchestrées désormais en une poignée de secondes. C'est vrai que récemment, avec Ludoc, le youtubeur, se posait la question des cyberattaques de demain qui seront organisées par IA. Voilà. Et lui dit, il est impossible de contrer une attaque pilotée par une IA avec une défense menée par l'humain. Il faut une IA pour combattre une IA. Et surtout, la question des personnes moins qualifiées reste ouverte. La vision irénique. J'apprends un nouveau mot. Irénique, qu'est-ce que ça veut dire ? Irénique. Sûrement pas irénique ta mère, ça m'étonnerait. Ça n'a rien à voir avec le rap. Ok. Irénique, ça veut dire emprunt d'irénisme. Ok. Qu'est-ce que veut dire irénisme ? Vous savez, vous êtes le chat, vous êtes très fort, mais... L'irénisme, attitude de compréhension dans la discussion entre personnes d'opinions différentes. Alors, particulièrement entre chrétiens de confessions différentes, mais de façon plus large, la capacité, l'attitude de compréhension... Ah, bah c'est ce qu'on fait ici. Attends, mais nous, on fait de l'irénisme tous les jours ici. Attitude de compréhension dans la discussion entre personnes d'opinions différentes. Mais c'est nous, ça. Alors ça, alors. Eh bien, nous ne le savions pas. Mais nous sommes irénistes. Et je m'en félicite. Vous êtes... Salut, Kruginou. On irénique entre nous. Exactement, Sugar. Ça irénique très fort ici. Vous pouvez rajouter cette ligne à votre CV. Voilà. Ici, ça irénique tous les jours. Et ce n'est pas ironique. Voilà. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Exactement. C'est ça qu'on fait ici. Moi, sans le savoir, j'iranique beaucoup, moi. Donc, la vision irénique d'HumanX a été tempérée non pas par les entrepreneurs, mais par l'auteur de science-fiction, Neil Stephenson, dont le roman L'âge de diamant décrivait dès 1995 un monde fait d'IA et de nanotechnologie qui semble désormais bien réel. Qu'est-ce qu'il dit après ? Ok. Il faut retourner l'humanité dans l'Angleterre du 19e au sein d'une société néo-victorienne, donc avant Victoria, caractérisée par l'immense fossé qui sépare en termes de statut social et de revenus l'élite de la base. Waouh ! Et une classe moyenne réduite à la portion congrue, soit totalement inexistante. Waouh ! C'est-à-dire quoi ? Il y aura juste une poignée de très riches et puis après, ce sera un peu, on va tous crever la dalle, c'est ça ? Lui, il dit, on y est. Voilà, il pose les termes du débat. Beaucoup de gens touchent des salaires plutôt confortables aujourd'hui simplement pour rédiger des emails et créer des présentations PowerPoint. Il y en a, on l'a vu dans l'affaire Lafarge tout à l'heure, qui sont très bien payés alors qu'ils ne lisent pas leurs emails, qu'ils ne lisent pas leurs courriers. C'est même pire que ça. Beaucoup de gens touchent des salaires plutôt confortables simplement pour rédiger des emails et créer des présentations PowerPoint. Ces personnes méritent-elles réellement leur salaire ou ne s'agit-il que d'un programme d'emploi déguisé pour diplômés d'université ? Waouh ! Nous sommes sur le point d'en avoir le cœur net avec l'IA. Oui, vous avez raison, c'est un peu Hunger Games, ouais. Merde, c'est flippant quand même, hein ? Certes, l'immense majorité des entrepreneurs de HumanX préfèrent garder l'esprit de pionniers américains toujours à la conquête de la frontière ultime. Ainsi, l'ingénieur futurologue Ray Kurzweil prophétisait lors de ce rendez-vous. J'aurais bien aimé être à cette réunion, hein. Il s'en passe des choses. Prophétisait lors de ce rendez-vous qu'à terme, cerveau et IA ne feraient plus qu'un. Oh, bordel de merde, où est-ce qu'on va ? Fort de sa prédiction de 99 de l'émergence de la superintelligence d'ici à 2029, le vétéran de la Silicon Valley, âgé de 78 ans, a annoncé le plus sérieusement du monde que l'IA serait à partir du milieu des années 2030. Putain, c'est long, pas longtemps, ça. Implantée dans le cerveau, sans intervention chirurgicale. Nom de Dieu. Lorsqu'une idée vous viendra à l'esprit, vous ne pourrez plus déterminer si elle provient de l'IA ou de votre cerveau biologique. Les deux seront indissociables. Mais parfois, un événement ramène sur Terre les visionnaires tels que ce cocktail Molotov lancé le 10 avril dernier contre la maison de Sam Altman, le fondateur d'OpenAI. Tout ne se passera pas sans heurts. La peur et l'anxiété suscitées par l'IA sont justifiées. Nous sommes en train d'assister à la plus profonde transformation de la société depuis longtemps. Et peut-être même de toute son histoire, a concédé Sam Altman. Le créateur de ChatGPT a également appelé à l'adoption de nouvelles politiques visant à nous aider à traverser une transition économique difficile. I know Kung Fu, exactement. Comme le dit Defecator, l'article n'est pas réjouissant, mais on a appris un nouveau mot. On s'interroge souvent sur le rôle du politique. Il me semble que l'un des défis que va devoir relever le politique, les politiques de tous les pays, les gouvernants de tous les pays, hein, exactement, ça va être de réguler tout ça. Parce que on a bien conscience, même si on n'est pas d'accord, de l'intensité du truc, qu'une révolution est en train de se produire, technologique, économique, intellectuelle. Hein, on est en train de le c'est même pas pressentir, on le voit en fait sous nos yeux. Hein. Et à un moment, il va falloir réguler tout ça. Quoi. Sinon, pardon, hein, je vais le dire en français châtié pour pas choquer les oreilles prudes. Sinon, eh ben on n'est pas dans la merde. Voilà. C'est fou, hein. Et ça va à une vitesse. Pensez que moi, et pourtant qui suis tout jeune, frais comme un gardon, regardez cette fraîcheur. Et moi j'ai vécu l'ère avant l'informatique. Hein, quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'ordinateur. Et ouais, il n'y avait pas d'Internet, tout ça. Ouais. Et voilà où on en est. Et oui. C'est fou. Allez, agenda. Qu'est-ce que je fais, moi, ce soir ? Je suis avec vous ou pas ? Il n'y avait pas d'électricité ? Il n'y avait pas le feu ? Ouais. Vous maravez, moi. Ah. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Agenda. Hein ? Il y avait le film du samedi soir, mais il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la télé. Tu es fada ! Est-ce qu'il y avait encore les mammouths ? Mais bien sûr. Le samedi soir, on ne regardait pas la télé, on allait chasser le mammouth, nous. Bien sûr. Alors, je prends mon agenda électronique. Papier. Ce soir, est-ce que ça stream ? Quel jour on est ? Mercredi ? 14h signature. Je signe un truc à 14h. 17h, j'appelle mon ami Victor. T'as peut-être un truc ce soir. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Du gaming? Ou on se fait une petite commission, la commission du Sénat, avec l'ami Jean Massier? Je sais pas. Je sais pas trop. Vous avez envie de faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, ça stream. On fait quoi ce soir? Hein? Qu'est-ce que vous voulez faire quoi ce soir? Commission? Petite commission? La com avec Jean? Oh là là. Ok, let's go. On fait des crêpes? On tente de conquérir le monde? Ok, on fera peut-être ça alors. Ok, des bisous, des poutous, petit Red qui est en live, let's go. Je regarde qui est en live. Et il y a des gens que j'aime en live, il faut que je choisisse. Ok. Oh! Mais c'est Tev qui est là, non? Eh, je vous emmène, je vous emmène au Japon. Ben Sugar vient de modérer un message de Sugar. Sugar a écrit, il y a un PC à gagner chez PA cet après-midi. Parce que... Ah putain, ouais, parce que t'as, du coup, t'as spoil. Merde. Et moi je lis en plus. Oh, putain. Bon, ok, on arrive au gars, on vous avez rien entendu. Ok, il y a ici Japon Corp qui est en matinale. Allez, super chaîne, super personne, let's go. Non, on n'a pas du tout spoilé. Non, on n'a pas du tout spoilé. Allez. Et bisous et merci pour ce matin, c'était super. Ici. Bon, bref, n'hésitez pas à aller voir PA cet après-midi sur son stream. Voilà, ça charge. Ici, on éteint la caméra quand on raid parce que. Parce que parfois il y a des accidents. Ah, salut Carole, bisous. Comme ça, il peut rien se passer. Boum. Je lance le raid. C'est en train de charger. On va voir ici Japon Corp. Voilà. Ils ont un joli studio en vrai. Hein. Voilà. Voilà. Je vous fais des bisous. On se retrouve ce soir. Et puis merci pour ce matin, c'était super. Et puis demain matin, il y aura la revue de presse, bien sûr. À tout à l'heure.
Un truc à part, sorti de nulle part qui...